Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Numérique. Studio 404, un podcast de qualité présenté par Sylvain Depalais.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Studio 404, l'émission de société numérique qui chronique nos comportements et nos petites névroses. Nous voici au numéro de mai 2017. Le printemps pointe le bout de son nez. La nature se fait légère et pourtant, comme vous, j'imagine, nos cœurs sont lourds ici. Nous sommes réunis chez nos chers partenaires du Tank, comme à l'accoutumée, et il flotte dans l'air un petit parfum de torpeur. C'est une émission un peu spéciale, vous vous en doutez. On va parler d'un sujet qui nous a tous concernés, choqués, déboussolés ces derniers jours, l'élection de Marine Le Pen à la fonction suprême. Marine Le Pen, présidente de la République. Que s'est-il passé? Pourquoi? Comment? C'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui avec nos chroniqueurs réunis autour de la table. Fibre, comment ça va?
Bonjour Sylvain, ça va bien? Moi, je vis plutôt bien puisque...
Puisque tu as voté pour elle.
Et puis je suis encore là, voilà.
Très bien. Et bien tout de suite, la première chronique par moi-même, Sylvain.
Sujet numéro 1.
Marine 2017. Chronique d'une victoire logique.
On n'a rien vu venir. Rien dans les sondages, rien dans la presse. On n'a rien vu venir. Rien non plus dans mon fil Facebook. Ni avant l'élection, ni après. Tout le monde pleure dans cette timeline. Où sont les 58% qui devraient se réjouir et faire la fête? Pourquoi est-ce que moi je ne les vois pas, ces électeurs? On n'a rien vu venir. La voici donc. Devant nos yeux, cette fameuse bulle filtrante que j'ai gonflé tous les jours depuis que je me suis inscrit sur les réseaux sociaux. On n'a rien vu venir et aujourd'hui, autant que Daz, Mélissa et Lame ne sont pas venus enregistrer. Depuis que Marine Le Pen a été élue à 58% au second tour contre Philippe Poutou, les actes violents et racistes se multiplient dans les rues, les Français issus de l'immigration ne sortent plus de chez eux, seuls des coursiers Deliveroo blancs osent livrer des pot-au-feu et des saucisses purées à vélo électrique. On avait eu un aperçu avec le Brexit, une confirmation avec Trump, mais là, c'est sûr, maintenant. Tout ce qu'on lit et consomme comme information en ligne passe à travers un filtre Instagram qui rend tout joli. Miroir, miroir, dis-moi ce qui est vrai, dis-moi qui sont les bâtards, comme se demandait à peu près la crime. Pardon, je devais rendre hommage à Daz, Petit Prince parti trop vite, en plaçant du rap français dans ma chronique. Et le miroir qui me répond, mais ce qui est vrai, Sylvain, c'est ce que l'algorithme affiche dans ton fil d'actualité. Et pourtant, on se l'était promis après Trump, on se l'était promis avec après le Brexit. On ne nous y reprendra pas. Facebook ne nous mentira pas une seconde fois ou une troisième fois. Car nous avons pris des mesures très fortes. D'abord, Facebook et Google ont arrêté de financer les sites de fausses news en coupant les revenus publicitaires. Bravo les gars. Ensuite, hashtag les médias ont fait leur mea culpa. Le média culpa, comme l'a titré Libé. Ils ont promis de faire plus attention, d'aller à la rencontre des vrais électeurs, de casser leur image élitiste de bobo hipster gaucho parigo qui font du Facebook live et du fact-checking. Et nous, on s'était dit qu'on allait élargir nos cercles, qu'on allait cliquer sur des choses qu'on ne lit pas, qu'on allait lire des choses qui vont à l'encontre de nos opinions. Mais regardez où on en est. Rien de tout ça n'a fonctionné. On n'a rien vu venir. Quelles sont donc les secrètes arcanes maniées par les équipes du FN pour réussir à passer sous le radar de cette manière, à convaincre sans faire de bruit? Alors pour vous, j'ai tenté de reconstituer la big picture, les grandes étapes de cette campagne numérique et d'en comprendre la réussite. Tout commence avec la défaite de Sarkozy aux primaires de la droite, au premier tour. C'est aussi la défaite de la communication politique basée sur le buzz. Une bonne punchline, un élément de langage, comme on dit en com-pol, communication politique. Et c'est la reprise dans tous les titres de la presse en ligne, puis de la presse papier. À Sciences Po, dans 10 ans, lorsqu'on parlera de cette époque, on évoquera la période double ration de frites. Trump nous l'a montré, puis Marine Le Pen. Aujourd'hui, la com-pol se joue en gonflant des bulles de plus en plus grosses et de plus en plus nombreuses, comme autant de mondes parallèles dans lesquels s'appliquent des lois propres et une réalité propre. Second temps fort de cette élection, François Hollande, qui rassemble une nouvelle fois la gauche à l'issue de la primaire. Là encore, une stratégie qui a fait long feu et qui lui aura permis de se hisser au moins jusqu'au premier tour, multiplier les meetings et événements avec une flopée d'artistes et de stars. On se demande ce qui a capoté. La nature des soutiens, artistes gauche caviar bobo parisien qu'on ne veut plus voir, ou simplement l'endorsement, le sponsoring par des stars qu'on considère beaucoup trop éloignées de la réalité du peuple. Petit morceau choisi hein, à l'époque sur Twitter. La gauche bobo caviar dans toute sa splendeur. Trois quarts sont des artistes, MDR entre parenthèses, subventionnés. Hashtag gardez bien cette liste. Ok, on se prend une leçon de civisme par des bourgeois, petits notables, bobos parisiens et pour la plupart exilés fiscaux. Bon, je ne vais pas revenir sur la notion de fachosphère, hein, Mélissa, en son temps, on avait parlé dans une chronique. Pensez à toi, Mélissa. Mais il faut comprendre que la stratégie numérique de Marine Le Pen sur Internet en est largement inspirée, voire affiliée. Ces tweets que je viens de citer, ils ne sont pas rédigés par Jérôme Plenet ou Sophia Courrèges, c'est des mots que j'invente. Hein. Pas non plus par des 6 ou 42 ou des Monsieur Julien. Pas de nom propre, pas de surnom. Non, ici, les gens qui écrivent ces tweets, ils s'appellent Vrai Français 83, Phil France, Patriote 44, ou encore Bleu Turquoise. Ce ne sont pas de simples citoyens qui se demandent quel papier ils vont mettre dans l'urne, mais bien des ambassadeurs du mouvement Bleu Marine, gonflés à bloc par les community managers du Front National, qui les alimentent en contenu à partager sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe ? Rien d'officiel dans cette stratégie. Ce n'est pas écrit dans les livres du FN. Mais ce sont des rouages bien huilés, éprouvés, qu'on a déjà vus dans la campagne américaine. Ces futurs ambassadeurs, ils sont identifiés grâce au logiciel de gestion des données de campagne. Donc, il y en a plusieurs sortes. On repère ceux qui interagissent le plus sur les réseaux sociaux, ceux qui ouvrent le plus de newsletters, etc., etc. On leur adresse ensuite des messages ciblés pour qu'ils les propagent. Voici la com politique nouvelle génération. Cette stratégie de l'empowerment a aussi son contenu idéal. Le format qui a cartonné pendant cette campagne, c'est la capture d'écran d'article. Facile à modifier avec Chrome, facile à redimensionner pour faire disparaître la source, bien entendu. La capture d'écran est devenue le médium de la fausse news. Même plus besoin de s'emmerder à créer des faux sites qui ont le look and feel des sites de presse. Il suffit de faire une capture d'écran un peu pétée. La dernière étape de cette campagne réussie, c'est l'appui de sites d'extrême droite qui ont pris de plus en plus de poids et de légitimité et qui ont permis de donner un cadre caution à toute cette intox. Si bien que certaines histoires complètement fausses se sont retrouvées sur le fil AFP à plusieurs reprises. Alors, quand une histoire démarre d'une fausse rumeur sur Twitter ou sur F de Souche, ou sur égalité et réconciliation, ou encore sur le Breitbart français, et qui finit dans l'AFP, on a un joli résumé de cette campagne qui a amené Marine Le Pen à être élu président de la République. Donc du tweet de Patriote à la fausse capture d'écran jusqu'au fil AFP, c'est tout le travail de communication numérique du Front National qui est résumé ici. Ce qu'a compris le FN depuis longtemps, et ça va de pair avec le côté « nous, on est proche du peuple », c'est que la masse électorale, elle n'en peut plus des messages descendants. Les Français, ils ne supportent plus cette centralisation parisienne, ce côté capital culturel et intellectuel qui donne des leçons. Le FN applique des méthodes dont on parle depuis très longtemps en politique, ce qu'on appelle aux États-Unis les mouvements grassroots, c'est-à-dire des volontaires à l'échelle ultra-locale qui animent et organisent des événements, font du porte-à-porte, etc. etc. Sur le numérique, cette échelle ultra-locale, eh ben c'est vos fameuses bulles dans lesquelles vous êtes enfermés. Pour le dire en langage marketing, clin d'œil à la COGIP, on est vraiment passé du one too many au many too many. Et le Front National a donné le pouvoir au peuple, le pouvoir d'avoir pris un poids dans l'élection. Si Hitler, point Godwin, avait inventé la propagande d'État grâce aux médias de masse, les populistes d'Europe et d'Amérique aujourd'hui ont inventé la propagande démocratique sur les réseaux sociaux. Je reviens du futur, vous l'avez compris. Marine Le Pen a été élue et les chercheurs du CERN m'ont envoyé dans le passé pour vous mettre en garde. C'est bien beau d'essayer de briser sa bulle, d'élargir ses horizons pour comprendre son prochain oncle facho. Mais c'est inutile, la reproduction sociale n'a pas attendu Facebook. Vous êtes déjà né, en fait, dans une bulle filtrante. Donc le véritable enjeu des prochaines années, c'est tenter d'avoir quelqu'un pour représenter ses idées au niveau politique. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne se fait plus en votant, ça. Ça se fait en s'engageant à l'échelle locale, dans votre quartier, comme dans votre bulle Facebook. Voilà mes conseils.
Fantastique.
Merci beaucoup, Fibre, mon unique auditeur.
Il y a beaucoup d'écho ici, quand même. Hein.
Tout à fait, il y a très peu de personnes. Donc du coup, Phil, qu'est-ce que tu en penses de cette chronique de moi-même ? Est-ce que tu penses qu'il faut appliquer ces conseils ? Est-ce que tu penses qu'il y a un malaise ?
L'âme me manque beaucoup.
C'est vrai ?
Ouais. Et Daz aussi, et psst, Mélissa.
Psst. On est là. On est là.
Gislain, tu peux leur ouvrir ? Tu peux les laisser. Non, mais on s'en fout des lois en application. Là. Tu les laisses rentrer quand même. C'est bon.
C'est bon.
Merci.
C'est bon. Attends, je relève ma capuche.
Installez-vous, les gars.
Ça va, les gars.
On a fait livrer des pot-au-feu par Deliveroo.
En couverture. Bon, bah, du coup, avec Daz et Mélissa, on a échappé aux milices. C'était cool. C'était
une belle balade. Super compliqué de trouver un kebab. Hein. Je vous cache pas que, en mai 2017, là, l'horizon culinaire français s'est drastiquement réduit, quand même. Hein.
Donc, de retour en novembre 2016, où nous pouvons encore nous balader librement hein, dans le pays. Il nous reste 5 mois, 6 mois, on va en profiter,
ouais,
les amis. Avant de vous laisser tous les deux tout seuls, Sylvain de Palais, Fibre de Tigre, discuter. Sylvain, tu nous as raconté la victoire de Marine Le Pen, et c'était très logique. C'était pas du tout un délire d'anticipation. Tu es parti de mécaniques existantes et de choses qui ont été appliquées et qui ont été vérifiées récemment.
Tout est très réaliste.
C'est affreux.
Peut-être trop, justement.
C'est affreux. Mais ça, tu levais la main ?
Non, pas du tout. Je m'étirais. Parce que ça a été dur. Je suis contente d'avoir appris à jouer aux jeux vidéo en 6 mois. Comme ça, j'ai réussi à échapper aux milices.
Et t'es arrivé en rampant. Et du coup, est-ce que vous trouvez le scénario de Sylvain, justement, comme on disait, réaliste ? Ou est-ce que vous faites partie des gens qui disent « Non, le Brexit, c'était la leçon numéro 1. Trump, c'était la leçon numéro 2. On ne se fera pas avoir. Il y aura une exception française.
Jamais 203.
On échappera au populisme, aux fausses news, aux, à ces fameuses bulles qui sont aujourd'hui montrées du doigt par tous. On sera conscient de ce qui se passe en France et voilà.
Franchement, on aurait fait cette émission même pas pré-Brexit. On l'aurait fait entre le Brexit et l'élection américaine. Je pense que j'aurais dû mettre n'importe quoi. Mais tu rêves, mais t'es fou et tout. Et là, maintenant, en fait, en novembre 2016, je co-signe complètement le truc, en fait. C'est super flippant, mais on se rend compte que tout le monde a été pris de court, bien au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Donc, pourquoi pas nous ? Ça, c'est clair que...
Mais regarde, la primaire de droite, moi, j'ai l'impression que la surprise est devenue l'habitude.
On enregistre aujourd'hui le jour des résultats du second tour de la primaire de droite entre Alain Juppé et François Fillon.
Et donc, les résultats du premier tour ont donné Fillon à 44%. Ce qui est fou parce que personne ne l'avait vu venir. Et
lui, du coup, il a une com vraiment très traditionnelle. Quoi.
C'est ça. Et en fait, moi, je me dis à chaque fois, non, mais je sais, on sait ce qui va se passer. Et à chaque fois, non. Donc, je crois plus en rien. Donc,
je veux dire que si Marine Le Pen est en tête des sondages actuellement, c'est un message d'espoir.
C'est ça. Si on est sûr que ça va arriver, en fait, non. Mais on ne sait pas ce qui va arriver en vrai, du coup. Ce qui peut être encore une mauvaise surprise.
Alors, Fibre Tic, quand tu étais en mai 2017, tu avais l'air de te réjouir des choses. Hein
t'avais l'air de très bonne humeur.
Maintenant que tu es recatapulté en novembre 2016 avec nous.
J'avoue que j'ai un côté anarchiste, j'aime fort le monde brûler, donc ouais, j'aime bien que les choses changent. Mais alors, je ne crois pas du tout, mais pas du tout en la bulle filtrante. Je pense que c'est. Il y a une défaite concrète d'analyse des médias depuis plusieurs mois. Et là, c'est un peu leur excuse. Oui, mais il y a la bulle filtrante, blablabla. Non, vous êtes nuls. Et
voilà, c'était la fin de mon plaidoyer, des arguments.
Fibre qui doit consulter des sites de médias toute la journée.
Maintenant, je vais dire quelque chose, c'est que s'il doit y avoir une bulle filtrante, elle est de plus en plus faible à mesure que les jours passent. C'est-à-dire que quand vous retournez dans le passé, en 1986, quand vous avez un ouvrier qui est dans une usine, qui lit l'Humanité et Libé, le mec, il est dans une bulle filtrante en béton armé. C'est-à-dire le mec qui sortira jamais de sa prison idéologique. Et aujourd'hui, on a plein de sources, et même justement, comme le disait Sylvain, c'est-à-dire que si vous voulez vous renseigner sur Fillon ou sur Hollande, vous allez avoir des mecs du Front National qui vont vous vriller la tête avec des tweets, et vice-versa. Par exemple, pour regarder un truc comme Fidel Castro, où les gens s'étripent depuis deux jours, il y a à la fois des mecs qui sont contre, des mecs qui sont pour, des mecs qui pleurent, c'est un grand homme, d'autres disent c'est un dictateur sanguinaire. Donc, plus que jamais, on a une vision hyper objective dans l'histoire de l'humanité sur des événements.
Donc, toi, tu n'es pas d'accord avec Sylvain ? Tu penses que.
Et si effectivement.
Aujourd'hui, il n'y a pas de déformation de.
Mais non, et si effectivement, à un moment, il va falloir se mettre d'accord. C'est que le Brexit a eu lieu parce que les Anglais voulaient sortir de l'Europe. Trump a été élu parce que les Américains voulaient Trump. Et si demain Marine Le Pen est élue, c'est parce que les Français veulent voter Marine Le Pen. Je veux dire, à un moment, il faut affronter les choses en face, même si elles ne sont pas d'accord avec vos réalités. C'est tout.
Donc, pour toi, toute la population est informée de manière objective et bien informée.
Alors, elle n'est pas idéalement, mais en tout cas, de mieux en mieux.
Non, mais c'est pas objectif, c'est juste que tout le monde a beaucoup plus de sources. C'est-à-dire que, en fait, quand tu parles du mec qui lit Libé et l'Humanité en 86, aujourd'hui, on essaie de recréer ce confort de « on va lire les trucs qui nous plaisent », mais on en a juste plein et plus. Mais c'est pareil, nous, on lit nos médias préférés, on se cantonne là-dedans, on voit plus de choses passer, mais tu vas toujours préférer le truc qui est en accord avec tes idées plutôt que d'aller te confronter.
Donc le miracle d'Internet qui te propose toutes les connaissances sur une sorte de pied d'égalité absolu n'existe pas.
Il existe. C'est bien ça le problème.
C'est juste qu'on ne s'y confronte pas complètement. On s'y confronte plus, à mon avis, qu'à l'époque dont il parle, en 86, quand il dit Libé, machin. Mais de fait, on a encore nos réflexes de « j'aime la vie confortable et j'aime mes sources préférées ».
Excusez-moi, mais il y a aussi un événement. Ce qui drive les médias aujourd'hui, c'est triste, c'est le ranking Google. C'est-à-dire que on va parler de Trump ou de Marine Le Pen. C'est un peu comme quand on a envie de Philippot sur tous les plateaux parce qu'il va faire du chiffre. C'est un peu ça. On cherche.
Il a raison quand même.
On cherche les news qui vont faire parler d'elle. Et à la fois, il y a les gens qui sont talentueux.
C'est plus le partage sur Facebook que le ranking Google aujourd'hui.
Ouais, mais si c'est partagé sur Facebook, c'est parce que ça sort.
Non, justement, la grande nouveauté, c'est que les réseaux sociaux sont là où les news les articles viraux naissent et se répondent. Justement, ils outrepassent Google aujourd'hui.
En fait, voilà,
c'est pour ça que la fausse news est
Vous, si vous parlez d'articles viraux et moi, c'est surtout ça qui. Parce que, Fibre, tu citais l'Humanité Libération. En fait, le problème pour moi, c'est que. L'Humanité Libération, quand tu lisais ça, ou Le Figaro, ou n'importe quoi, tu savais que c'était des journaux avec des rédactions, etc. Oui. Là, en fait, sur Facebook et sur Twitter, tu vas te retrouver avec des publications qui sont au même niveau qu'un New York Times, un Washington Post, oui. un Le Monde.
Parce que tout a la même gueule.
Voilà, tout se ressemble. Et en fait, c'est ces trucs-là que tu vas lire et auxquels tu vas accorder le même crédit que si c'est une publication sérieuse. Je dis sérieuse entre guillemets vraiment parce que mm-hmm. voilà. En fait, ça peut être le fruit d'un mec qui est tout seul dans sa chambre et qui décide d'écrire et de se.
Un adolescent macédonien, par exemple. Il y a ce truc de BuzzFeed qui a mené une enquête et qui a observé qu'en dans une ville de Macédoine dont j'ai oublié le nom, il y a des adolescents qui gagnaient des milliers de dollars en éditant des faux sites politiques pro-Trump en fait. Et donc ils balançaient des fausses news à longueur de journée. Ils étaient rémunérés par la publicité Facebook qu'ils hébergeaient sur leur site.
Et en fait, ça prenait un fou sur les réseaux sociaux et voilà.
Donc la Macédoine, c'est l'épicentre du populisme américain. C'est quand même, on est vraiment merveilleux.
Ils avaient essayé avec Clinton, ils avaient essayé avec Sanders, ils avaient essayé avec Trump et ils se sont et en faisant leurs essais, ils se sont dit en fait, c'est qu'avec Trump que ça marche aussi bien quoi. Que les électeurs pro-Trump partagent des trucs sans vérifier les
sources. Parce qu'ils avaient besoin de matière aussi, parce qu'il y avait tellement de... Trump partait tellement handicapé.
Ce qu'on a réalisé, c'est que les gens sont contrefoutés de la vérité. Quoi.
Et donc, pour revenir à la chronique de Sylvain, est-ce que les gens se contrefouteront encore de la vérité? Est-ce que les gens seront encore assez naïfs ou refuseront de se confronter à une forme de réalité pour nos élections de 2017? Ou est-ce que vous pensez que ça va se passer différemment en France? La question simple du dimanche soir.
Je serais tenté de dire que on voit justement les exemples concrets de ce qu'il faut éviter à tout prix. Mais moi, je suis plutôt pessimiste là-dessus. Je pense que ça.
D'accord.
Ça
donc Daz, team pessimiste. Non, mais c'est comme ça. On fera les comptes dans 6 mois.
On verra. Il y a un truc très bizarre en ce moment, c'est qu'il y a plein de gens qui savent pas pour qui ils vont voter, mais vraiment, ils ont aucune idée. Alors qu'avant, on commençait vite à comprendre. Aujourd'hui, rien. Et donc, moi, j'ai vraiment peur de tous ces gens qui se disent « Oh là là, tous pourris, blablabla, ces amalgames et tout », qui vont faire que le résultat, on n'a aucune idée de ce que ça va être et on est 6 mois avant. Quoi. Donc, c'est encore pire qu'une une élection classique.
Et toi, Mélissa, dans l'obscurité totale. Quoi.
Ah oui, carrément.
Ok. Sylvain, est-ce que tu crois à ta chronique ou tu l'as écrit en essayant de ne pas y croire?
J'aimerais bien ne pas y croire, mais team pessimiste. Quoi. Team pessimiste parce que... je sais pas, je crois que dans la chronique de Daz, tu vas évoquer l'oncle un peu relou au repas de Noël. le mec qui te dit non, mais vous avez vu quand même que les islamistes égorgent des chats dans les mosquées. Enfin, oui, mais tu tiens ça d'où? Internet. T'as pas vu le lien sur Internet? Moi, je crois vraiment que les gens sont pas éduqués aux médias en fait.
D'accord.
Aux médias numériques.
Fibre, t'y crois ce qui...
Alors, en prenant l'hypothèse que je suis pas... C'est pas avéré que les médias influencent l'opinion politique des gens, on est mal barré parce que j'ai entre Bolloré et iTélé, c'était terrible, BFM TV, et les médias qui sont hyper dépendants justement des rankings Google et du clic, il faut le dire, et qui d'un autre côté sont aussi dépendants des subventions françaises qui vont être associées...
Mais là, donc tu parles des médias... des vraies entreprises de médias. Là, on parle justement du média au sens large, dans le sens toutes les publications, et c'est ça qui a beaucoup joué dans l'élection de Trump. Tu vois.
Dans ce cas-là, la morale, c'est de dire que les réseaux extrémistes sont les moins ringards pour l'utilisation des réseaux sociaux.
Donc là tu...
Non,
tu...
c'est pas les moins ringards, c'est juste qu'ils passent, quoi. Et ça marche. Les gens ont envie de lire ça, donc ça passe.
Ils ont montré leur efficacité.
Non, alors moi, je dis, je pense pas que les réseaux sociaux aient un réel impact sur les élections, et la suivante, c'est qu'aujourd'hui, il y a clairement une réelle présence du Front National sur le Twitter, par exemple. Mais j'ai vu la même chose à la dernière élection pour les Mélenchons. Les Mélenchonistes étaient partout et les mecs étaient persuadés dur comme fer sur Twitter que Mélenchon allait être élu. Il n'est même pas passé au second tour, tu vois. Et vraiment, un score misérable. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux soient le reflet en France du paysage politique.
Très bien. Donc, est-ce que tu y crois ou pas, pour finir?
De quoi?
À la prédiction de Sylvain.
De Marine Le Pen?
Ouais.
Non, elle sera. Et même pas sûr qu'elle soit au second tour.
Ah, carrément. Voilà. Très bien. Bon, on prend des notes. Je suis content parce que je pense qu'on a fait le début d'émission le plus enthousiaste de l'histoire de 404.
Dimanche soir, c'est pour ça, top.
On a démarré de manière vraiment très, très bien. On est d'accord pour dire que les émissions de novembre, maintenant, sont maudites. Hein. On essaie de ne pas être dans l'actu, on essaie d'être toujours un peu décalé, etc. Et l'année dernière, c'était les attentats. Cette année, c'est Trump.
J'espère que l'émission de Noël sera joyeuse et chaleureuse.
On espère, en tout cas. En tout cas, on va attaquer tout de suite une première FAQ, puisqu'on était au Piol il y a quelques jours et nous vous avons posé des questions. C'était une première question qui était un peu dure puisqu'on a demandé aux auditeurs ce qu'ils feraient s'ils étaient le community manager de Marine Le Pen. Comment ils la feraient gagner?
Si j'étais CM du Front National, je ferais une Trump, c'est-à-dire des fake news à mort sur les migrants, le racisme, mais... Bravo. Mais genre, je blinde, quoi. Je blinde la mauvaise foi, la méchanceté. J'ai rien à en faire, je m'en branle. Et à la fin, ça marchera, parce que de toute façon, c'est que des cons qui votent derrière.
Je sais pas, j'essaierai de faire... Ce qui marche pas mal aussi sur Internet, c'est un peu... les BD politiques, tu sais, ou les BD qui dénoncent, des choses comme ça, qui tournent, qui sont plus ou moins avérées selon les BD. Et, des BD sur le père, ça peut être marrant, tu vois.
Des BD sur le père.
Quitte à être un peu dans le trou, autant aller jusqu'au bout, tu vois.
Je fais des Snapchat à la fibre de tigre, où Marine Le Pen raconterait un peu sa vie pour l'humaniser.
Bah, a priori, la façon Trump a pas mal marché, donc je la ferai un peu changer de coupe de cheveux. Ouais, je la bosserai là-dedans, dans le sexisme, le racisme, tout ce qui marche, a priori, quoi.
Je pense que j'irai faire un tour sur Twitter pour essayer de troller les jeunes et du coup de faire parler de moi, en fait. Du coup, plus on troll, plus on est trollé et du coup, plus on parle de nous.
Ah, donc tu ferais campagne par le troll.
Quand on est le Front National, on n'a pas le choix, concrètement.
Je pense que... Je suis pas sûr, alors. C'est une fausse idée, je pense, de ma part, mais je pense que l'électorat de Marine Le Pen est... sont pas des gens très très connectés au final. Très, ben, ils utilisent Facebook, certains Twitter et tout ça, mais je pense que essayer d'avoir une espèce de communication hyper évoluée, ça marchera pas. Faut juste rester genre on fera jamais pire que les autres, on fera un truc très...
Ouais, simple. Donc du basique, quoi.
J'irai voir le compte de Donald Trump et je ferai des copier-coller, je mettrai dans Google Translate et je posterai que ça.
Moi, je pense que je continuerai sur le schéma qu'a emprunté Trump. Clairement, il y a une triptyque là qui se dessine entre Poutine, Trump et Le Pen. Bah, faut garder sur le, faut choquer, je pense, parce que visiblement, ça pose pas de problème et ça devrait le faire, quoi.
Là, juste à reprendre ce que ça fait Trump, bâcher les élites, les méchants qui habitent à Paris, les riches, alors qu'elles-mêmes représentent l'élite. Je pense que c'est facile en fait pour eux, quoi.
Bah, je pense que je m'inspire de l'un de mes maîtres en community management qui s'appelle Curtis ou Adamo ou Suspicious Man et je dessine des beats et je les partage.
Le jour où c'est vraiment un community manager qui fait gagner une élection présidentielle, je pense que je me déconnecte pour toujours. C'est la fin de mon abonnement à Bouygues ou à Free, quoi.
Le truc à faire, c'est de suivre les gens de gauche, mais ils le font déjà.
Donc je lui dirais, comme elle fait en fait. C'est détaché un peu son père, qui est le taré de service, tu vois, c'est le tonton bourré au mariage, et continuer à se lancer. Mais heureusement, on a Eric Zemmour qui casse toujours l'ambiance.
Je mettrai des photos de ses chats tout le temps. Je ferai que des lolcats hein, avec ses propres chats.
Ah, je sais pas, un discours à base de à mort les migrants, non? Ça marcherait bien.
Ouais, donc tu continues la lancer, quoi.
Ouais, ils sont pas mauvais, hein, ils s'en sortent, hein.
C'est
affreux, c'est ultra déprimant, c'est ultra marrant parce qu'ils sont tous bourrés quand même. On sent dans leur voix qu'ils sont un peu ivres morts.
Souvent, tous prennent le truc au premier degré. Genre, bah ouais.
Ah, c'est ce qu'on leur avait demandé.
Faut faire le taf, quoi.
Bah, en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit je refuse ou je. Ouais. Et on les a retirés parce qu'on a dit non, il faut te mettre dans le rôle d'un community manager de Marine Le Pen. Et effectivement, je crois que c'est les plus alcoolisés qui ont répondu plus naturellement.
Ça serait un bon sujet, tu vois, à se poser la question est-ce que les community managers ont une âme, tu vois.
Je pense.
Ça mériterait une chronique.
C'est intéressant.
L'homme
qui
ne ratissait pas trop large.
Comme, hein, un peu comme les avocats qui parfois doivent défendre des truands.
Bah oui,
t'es community manager, t'es obligé de te défendre ta marque. Voilà.
T'es un peu l'avocat d'un truand, quoi. Tu restes avocat.
Et même Monsanto, un community manager. Tu vois.
Vous, ça va vous, leur conseil, Mélissa, Sylvain, vous les trouvez pas mal ou pas? On continue sur cette lancée.
C'est pas très innovant, ça me rassure, si jamais ils devaient vraiment le faire. Ça marcherait pas.
Il y a des bonnes idées, mais j'ai détecté quand même de temps en temps une petite pointe de condescendance. L'électorat, Front National n'est pas connecté, ouais. Ce genre de choses. Je pense que c'est un petit peu se voiler la face par rapport à la réalité.
Très bien, très bien. Eh bien, dis donc, on a fait une FAQ encore bien.
Ouais, il est temps d'avancer sur cette émission.
Fun et bigarré. On attaque tout de suite la deuxième chronique avec Das qui aura la lourde tâche de remonter un peu
l'ambiance.
Allez, c'est parti.
Sujet numéro 2.
Coucou les filles, voici mon tuto pour briser la bulle de vos réseaux.
Magnifique titrail,
ouais.
Merci Angie, merci Ghislain. alors voilà, on en est là, si j'en crois la presse moldue, on est tous à la merci de la bulle filtrante, décrite par Sylvain. Ma tâche pour cette chronique consiste donc à faire un tuto pour en sortir de la bulle filtrante, mais du coup je me trouve fort dépourvu quand la bise fut venue, parce que à titre personnel, et je rejoins en ça mon collègue, mon acolyte de toujours Fibre Tigre, j'y crois pas trop à cette bulle favorisée par Facebook et ses semblables. Du coup pour le tuto ça va être un peu compliqué, parce que si je me force à en parler de la bulle filtrante des réseaux sociaux,
Bordel, mon petit pote, je vais me retrouver à éructer des lieux communs pendant 10 minutes dans ce microphone avec un regard fâché, les copains. Putain de bordel de merde, je vais vous baver dans la bonnette en vous expliquant que la bulle filtrante, c'est à cause d'Internet et de la technologie, ces trucs que le capitalisme a créés pour abrutir les masses. Oui, ok, c'est ce qui me permet de vous parler, mais c'est pas la question, d'accord, les copains? Et les journaleux? Ah! Parlons-en des journaleux. Hein, ceux-là, jamais capables de retrouver leur propre trou du cul, même avec un GPS et 36 satellites dédiés, toujours à essayer de se dédouaner du fait d'être de sombres enculés. Oui, les journaleux, je parle à vous. Vous qui critiquez toujours le peuple. Celui-là même qui vous fait vivre en raquant les subventions pour que vous, chiasseux, puissiez continuer à taper vos articles de merde sur vos MacBook Pro Apple. Celui avec la touch bar qui sert à que dalle là, mais qu'est-ce qui t'a pris Apple, putain? Ah
ouais. Finalement, je vais laisser ce format à Bonjour Tristesse. Moi, je vais plutôt partir sur un truc un peu plus consensuel et moins engagé.
Ah bah vas-y, Das.
Je vais partir sur un format topito. Alors, êtes-vous prêts? Voici le top 3 des trucs à faire pour sortir de la bulle filtrante de Facebook et Twitter. Conseil numéro 1. Alors, j'annonce, hein, je vous tutoie, parce que c'est Topito, donc Topito tutoie ses lecteurs. Alors, clique sur tous les trending topics que tu croises sur Twitter, même les sponsors. Car quoi de mieux pour sortir de ta bulle que de plonger dans la merde? Conseil numéro 2. Abonne-toi au compte que tu détestes. Comme ça, tu verras ta timeline se remplir de contenu flingué. Ça va niquer ton moral, mais au moins tu seras sorti de ta bulle. Conseil numéro 3. Ne partage jamais un post qui relaye une news sans aucun lien vers l'article. Genre un tweet qui dit « De mieux en mieux les islamo-gauchistes » et qui est illustré par une copie d'écran affichant un titre d'article de Libération, mais sans le lien vers l'article en question. Voilà, c'est tout ce que j'avais, parce que bon, bah, ça reste Topito. Parce qu'en fait...
Topito, c'est un top 10 en général. Hein.
Oui, mais bon, là, j'ai fait un top 3 parce qu'on n'avait pas le temps.
T'as fait un tiers de Topito. T'as fait un taux.
Voilà, j'ai fait un taux. En fait, au lieu de focus sur la bulle filtrante de Facebook et de comment en sortir, ce tuto devrait se pencher sur comment on doit utiliser Internet. Parce que Sylvain vous l'a dit avant, la bulle filtrante, c'est la vie normale, en fait. Et Fibre-Tigre reprenait aussi cet état de fait. Alors, il n'y a pas, à ma connaissance, de guide ultime sur comment est-ce qu'on peut utiliser Internet. Peut-être que dans 500 ans, on aura assez de recul pour pondre des guidelines. Un peu comme de nos jours, 1937 ans après Pompéi, on est tous à peu près d'accord pour admettre que construire une grande ville à proximité immédiate d'un volcan malicieux, c'est pas la meilleure idée. En attendant ce retour d'expérience, on va donc devoir se débrouiller seul. Alors, si j'avais des conseils à vous donner, le premier, ça serait celui-ci. Rappelons-nous, parce que nous, à Studio 404, on s'inclut dans la cible, okay, donc on se nounoie.
On se nounoie.
On se nounoie. Rappelons-nous que sur Internet, la déontologie est en option et l'honnêteté un concept. Que mon oncle retraité un peu con partage des trucs un peu borderline, je peux le concevoir. Il est un peu con et c'est mon oncle. En revanche, que cet idiot ne soit pas conscient que ce qu'il partage est totalement faux, ça m'inquiète. Oui, moi je préfère un escroc à un idiot en fait. Ah ben oui, mais c'est vrai, la preuve, je l'ai lu sur Internet. Eh ben non, tonton Christophe Bourza, sur Internet, la vérité compte moins que le buzz. Et le buzz, on le tape plus facilement avec des trucs outranciers. Il y a 80 ans, le buzz, on appelait ça la propagande. Et la propagande, c'est un peu comme une enveloppe du trésor public dans votre boîte aux lettres au mois de novembre. C'est jamais bon signe quand ça commence à apparaître. De là découle directement le conseil numéro 2. Croisons les sources, bordel. Si vous avez vu Ghostbusters, le seul truc à ne jamais croiser, c'est les effluves. Tout le reste, c'est bonnard, vous pouvez y aller franco. On le fait bien, hein, croiser les sources quand on trouve cet écran Asus Republic of Gamers Swift de 34 pouces tout neuf sur le bon coin à 300 euros au lieu des 1200 euros habituels. Mais bizarrement, quand on lit un papier parlant de rites vaudous islamistes et d'actes de cannibalisme à Sevran, personne filtre, personne croise, voilà. Donc, il faut les croiser, ces sources, il faut recouper l'info. Car comme le disait Robert De Niro, et comme le dit également Roff, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute.
T'as croisé les citations, là.
C'était la même, en plus. Je ne sais pas si c'est Robert De Niro qui s'est inspiré de Roff ou le contraire.
Roff De Niro, allez.
Pas mal. Conseil numéro 3, discutons. C'est à ça que c'était supposé servir ces bordels à la base. Alors là, je sais, les adeptes de l'autofélation vont me dire « c'est pas pratique, bouhouhou, je m'y perds, j'arrive pas à parler sur Twitter, je comprends rien. » Ouais, bah, la vie aussi, c'est pas pratique et on s'y perd souvent, pourtant on persiste. Alors arrêtons de geindre et mettons-nous au boulot. Quand on spot des commentaires un peu rances de la part de nos contacts, qu'ils soient directs ou pas, pas le choix, faut y aller, comme disait Faflarage. On enfile la blouse, les surchaussons en papier, une passe à l'âge sur le pif et go, plongeons dans le caca. Alors attention, il y a quand même des méthodes. Évitez de rentrer dans la pièce avec un coup de pied dans la porte en insultant tout le monde d'entrée. Ma meuf fait ça, ça marche moyen. Ma meuf est méditerranéenne. Mais vous pouvez par contre rentrer tranquillement en toquant, en disant « bonjour, je m'invite dans ce débat ». Est-ce que vous pourriez développer un petit peu, voire beaucoup? Si le contact en question, donc qui est à l'auteur de ce contenu un peu rance, vous bloque avant que vous l'ayez insulté, considérez que le débat est clos et que vous avez gagné. Conseil numéro 4, directement lié au conseil numéro 3, acceptons les opinions divergentes.
Tu acceptes les opinions divergentes?
J'accepte totalement les opinions divergentes. C'est les divergentes qui ne m'acceptent pas. Là, c'est autre chose. Les blocages, bans et signalements nous permettent de faire disparaître purement et simplement les gens que l'on décide d'ignorer. C'est pratique, ok. Mais utilisé à outrance, ça fausse la donne et peut carrément être contre-productif pour rester un petit peu poli. Voilà, donc ce sont quatre petits conseils qui ne sont finalement que des applications simples et concrètes du bon sens paysan cher à notre fibre tigre nationale et dont nous sommes normalement tous dotés en sortie d'usine. La bulle filtrante, elle n'est pas sur Facebook ou Twitter, elle est chez vous, au boulot, dans votre famille, tout le temps. Donc je propose là à nos auditeurs de partager leurs tips sur le forum pour nous permettre justement de sortir de cette bulle filtrante. On a quelques mois pour remettre Facebook en ordre avant les prochaines présidentielles et la route est encore longue. Au boulot et dans vos moments de doute, gardez toujours en tête cette phrase de Montesquieu, pas de destin que ce que nous faisons.
Oh, beaucoup de citations, dites donc.
Oui, beaucoup, mais c'est de la grande littérature que je propose à chaque fois, comme d'habitude.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Daz ou pas alors? Est-ce que Daz vous dit la bulle filtrante n'existe pas? En fait, les conseils d'hygiène sur Internet s'appliquent à tout, tout le temps, au final.
Oui, mais les gens ne sont pas encore habitués aux conseils d'hygiène.
Les gens sont encore un peu sales sur Internet, tu trouves?
Non, mais c'est vrai qu'avant, tu avais la télévision. Quand pour devenir une chaîne à la télé, tu ne peux pas accéder comme ça n'importe comment. Tu peux raconter n'importe quoi une fois que tu es validé, mais il y a le CSA qui vient de dire non, attention, Internet, il n'y a pas ça. Donc là, les gens le considèrent comme un média, comme la télé ou la radio ou la presse écrite. Donc à partir de là, ils se disent c'est Internet, ça va vite, j'ai lu ça. Enfin, tu vois, tu lis, tu scannes. Personne ne va prendre le quart d'heure toujours pour se dire je vais croiser les sources, discuter, machin. Ils peuvent discuter, mais croiser les sources, en fait, quand, c'est que le même truc qu'on disait avec Fib tout à l'heure, c'est le truc quand tu veux lire un truc qui va dans le sens de tes idées. Et si ça te conforte, tu dis
donc,
ok, je le prends.
Il y a une sorte de flémardise intellectuelle quand même.
Tout à fait.
Qui joue.
Pas pour tous, hein.
Oui.
Mais de fait, quand tu lis un truc, ah oui, ça va dans le sens de mes idées, boum, j'ai un argument, je l'ai lu sur Internet.
Et donc je le partage.
Ouais.
Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de contenu fleurir sur de l'éducation à comment vérifier que cette info est vraie ou pas. Donc j'ai vu passer pas mal de vidéos là-dessus. Moi, mon petit conseil, c'est que systématiquement, désormais, je sponsorise mes publications. pour les pousser, je mets 500 balles dans chaque publication. Pour les pousser
tu es riche,
à voilà, aux gens qui ne sont pas dans mon cercle. Quoi.
Mais imagine les
custom. Non,
les autres, c'est pareil.
Facebook, tu mettrais quoi comme profil ciblé dans Facebook?
Je sais pas, y a, quand tu fais une cible, dans Facebook publicité, là, tu peux faire une cible lookalike qui prend tous les gens d'une cible que tu as définie et qui te dit bah, je vais te construire une base qui fait la même taille avec des gens qui ressemblent. Bah, faudrait qu'ils inventent le look-up-alike.
Ah,
qu'ils prennent les mecs à l'opposé, ouais. Comme ça tu pourrais attester.
Fibre, Daz, qui c'est assez rare pour être souligné, tu es d'accord avec toi, dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de bulle filtrante spécifique en politique sur les réseaux sociaux, pour vraiment la qualifier précisément. Donc, tu es assez d'accord avec ce qu'il a dit?
Alors, il a donné une série de conseils. Je pense que c'est un peu une croisade perdue.
Ok.
Parce que...
La droite dure du futur va gagner.
Je crois que je suis auteur de fiction. Oui. Souvent, je dis plein de mensonges et je me dis « Ouais, je suis auteur de fiction. » Et je pense vraiment que les gens consomment la news comme de la fiction. C'est-à-dire, si vraiment on prenait les informations comme des faits hyper importants qui vont changer nos vies, à ce moment-là, une lecture du Canard enchaîné et vous allez réaliser, vous coupez la tête du président parce que c'est insupportable.
Oui.
Et en fait, on allume la télé, ce soir, il y aura Fillon qui va gagner ou qui va perdre, mais ça va évoquer en nous des émotions et on sera spectateur d'une sorte de théâtre, tu vois. Mm-hmm. Et on va être pour, contre, on va même être heureux d'être triste, tu vois. C'est très... Et je pense que l'oncle de Daz qui partage cette histoire qui est absurde sur des
donc, l'oncle de Daz, ça s'appelle pas Christophe Bourzin. On vous rappelle qu'on insère des noms de Patreon, de Patreonos dans nos émissions.
Voilà, mais bon.
Mais qui est content d'avoir payé. Hein. Ah, donc je donne 10 euros par mois et le mec, il.
Je peux pas insulter.
Je suis l'oncle Rance de Daz.
Quand vous avez quelqu'un qui a 40 ans qui partage une news absurde, et qu'il le fait, en fait, il partage un petit peu de fiction et dit, il envoie une allumette dans le tas de soufre, tu vois. Et je pense que c'est chacun à notre niveau. C'est-à-dire
je
que
crois vraiment qu'ils sont les gens conscients qui croient, de le faire.
Regardez, nous, on croit que Cahuzac n'avait que 600 000 euros en Suisse, alors qu'il a vraisemblablement 3 millions. Il n'est pas le seul. Ils sont tous pourris au gouvernement. C'est ça la réalité des trucs. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Et c'est pour ça que la politique, finalement, c'est un.
Je pensais qu'on n'aurait pas cet argument dans cette émission, mais si, c'est arrivé.
Non, mais. à chacun notre niveau, on vit dans notre illusion sur la et les news, ça reste un grand théâtre. Voilà. Là,
tu retouches. Sylvain va être tout content à tout ce qui est société du spectacle, un peu, non ?
Bah, je suis à moitié d'accord avec toi. Effectivement, c'est on vit tous dans notre petite bulle, du coup, dans notre petite réalité, et tout ce qui va dans notre sens, bah, on le partage allègrement sans vérifier si c'est vrai ou faux, parce que juste c'est des faits qui corroborent notre fiction. Ça, je suis ok. Par contre, je suis pas ok quand tu dis que les news et ce qu'on partage n'a aucune influence sur les gens, parce que si c'était le cas, ça ferait longtemps que les annonceurs, qui sont le modèle économique des médias, arrêteraient d'acheter de l'espace, des pages de pub et des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a des ressorts psychologiques qui sont la répétition. C'est-à-dire, plus t'es exposé à un message, voilà, je sais pas, il se passe des choses horribles dans les mosquées à Paris, bah plus tu vas recevoir ce message, plus il va être partagé, plus tu vas tomber dessus dans ton feed Facebook, bah au bout d'un moment, tu vas finir par y croire. Et je pense que c'est pas anodin et ça a un effet.
Je pense que Sylvain a raison.
Ah, l'élégance sur Internet.
Voilà. Et on revient à cette fameuse chronique, le fameux « tu as raison ».
Tu as raison.
Tu as raison. Et vous avez des petits conseils à ajouter à celui de Daz ou le kit qu'il vous a fourni vous paraît assez suffisant pour partir équipé sur Internet ?
Je trouve que la plus belle chose qu'a dit Daz dans sa chronique, c'est qu'il faut partir avec l'idée qu'on parle avec un humain en face de nous, qui pourrait être d'ailleurs notre frère ou notre ami ou peu importe. Il faut l'écouter, il faut comprendre son problème, il faut essayer de dialoguer en tant qu'humain et ça résoudra beaucoup, beaucoup de choses. Voilà.
Mélissa ?
Ouais. C'est ce que j'ai fait l'autre jour, j'étais dans un taxi. Et le mec voulait voter blanc.
La fameuse discussion avec le taxi, quoi.
Non, mais parce
avec
que
le Uber.
C'est comme ça que je sors de ma bulle. Parce que, de fait, même si Facebook, je m'en sers jamais, en fait...
Ouh, les élites dans les taxis, oh là là.
Non, mais
je sors de la bulle dans les taxis.
Quand il disait « discutons-en », c'est juste ça, discuter avec quelqu'un qui a un point de vue politique différent du tien. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que lui, il se pose des questions, toi, tu te poses des questions. Je sais pas s'il va finir par voter blanc, mais en tout cas, il disait ce truc de tous pourris, les politiques, machin, et t'entends ça. Et faut pas réagir en disant genre « ah, t'es con, j'arrête de parler », tu vois. Tu discutes et en fait, tu comprends pourquoi il dit ça. Et je pense que le conseil discuter est un beau conseil et qu'on devrait tous le faire plus.
Mais toi, t'as besoin de prendre un taxi, toi ?
Oui, à 2h du matin, quand je reviens du Val-de-Marne.
Ce que je veux dire, pour discuter avec des gens comme ça, sur les réseaux sociaux, t'as personne qui pense ce genre de truc.
Non, je sais pas qui sont. Enfin, toi.
Mais c'est incroyable.
Je t'ai déjà trouvé aussi. Hein. Ouais, moi, je les trouve pas spécialement dans mes films d'actu. Bah ouais.
Bah ouais. Putain, je trouve les gens dans la rue, c'est mieux. Hein.
Parce que moi, tu sais, c'était l'année dernière, il y a un an et demi, j'avais mis sur mon CV LinkedIn une ligne en plus. Oui. Qui disait que j'étais pourfendeur d'ineptie sur Facebook.
En toute modestie. Hein,
mais je le disais pour déconner en fait, et je me rends compte que limite, je pourrais faire carrière juste avec ce truc-là, parce que ça va finir par devenir un job à plein temps. Moi, dans mon feed Facebook, c'est pas forcément mes contacts, mais c'est des gens qui commentent des statuts de gens que je connais. Et donc, des fois, je discute comme ça avec
Est-ce que c'est l'ADN cogipien de ta vie qui fait que...
Qu'on aime bien discuter ?
Parce que par rapport à nous, t'es quand même le mec le plus ancré dans un quotidien déconnecté, en quelque sorte.
Pas déconnecté, connecté.
Non, mais ce que Philippe voulait dire, c'est ancré dans un milieu social plus varié, plus large que nous qui travaillons peut-être en freelance, dans le 11e arrondissement de Paris.
Sur mon compte Facebook, j'ai aucun ou très peu de collègues. Les seuls collègues que j'ai, c'est je peux les considérer comme des potes. Donc, on pense à peu près pareil. Là, c'est vraiment des gens qui réagissent sur des posts qui sont postés par des potes d'enfance, des gens comme ça, où tu vois, effectivement, t'as pris des trajectoires un peu différentes, mais tu les gardes quand même. Et moi, sincèrement, je trouve ça salutaire en fait d'avoir tous ces cons là qui commentent les statuts de mes potes, parce que ça me permet de garder un œil vraiment sur le niveau, quoi.
Et donc pour oui, Sylvain.
Moi, je voulais rajouter une petite technique que j'aimerais bien tester, que j'ai pas eu l'occasion, mais qui va plaire à Fibre, je pense, c'est de créer des personnages, des faux profils,
ouais.
soit gérés par toi-même, soit gérés par des bots, que tu vas orienter politiquement. Donc, tu te crées un personnage d'extrême droite, tu te crées un personnage d'extrême gauche, et puis de temps en temps, voilà, tu laisses le bot suivre des gens qui correspondent à justement. Tu crées plein de petites bulles et tu vas visiter ces bulles de temps en temps. Tu vas aller lire une timeline d'extrême droite pour voir à quoi ça ressemble, etc. Et du coup, tu te fais ta petite diversité comme ça.
Ah,
ça pourrait être un projet pour le forum de qualité, de créer des.
Ça serait très intéressant.
Et quelqu'un qui le fait très bien, c'est le vrai Curtis.
Non, on devrait le lancer aujourd'hui et voir en 2017 ce que ça donne.
J'ai peur du résultat. Allez, on attaque tout de suite la deuxième FAQ.
FAQ.
La deuxième FAQ, donc tirée de notre soirée au Piol, notre soirée alcoolisée, on l'a vu avec la première en tout cas, est aussi en rapport avec la chronique de Daz. Elles ne seront pas toutes en rapport avec les chroniques, mais celle-ci l'est. Elle vous demandait justement ce que vous avez ressenti avec cette élection de Trump. On a pour la première fois pensé donc à cette fameuse bulle, mais au fait qu'Internet n'était plus une source d'information, mais une source de désinformation ou de trouble plus qu'autre chose. On écoute tout de suite vos réponses.
Concrètement, je m'en fous un peu de l'élection américaine, mais c'est vrai qu'il y a une assez grosse bulle autour de Hillary Clinton et Trump, on n'en a pas beaucoup parlé. En fait, on ne nous a pas montré la vérité.
Je pense que dans mes amis, la plupart étaient vraiment anti-Trump. Par contre, j'avais une amie sur Facebook, amie au sens large, qui était vraiment pro-Trump et elle passait clairement les filtres. Donc, je voyais beaucoup d'infos pro-Trump et anti-Clinton. Donc, de mon côté, pas de filtre ou de bulle.
Non, je le sentais venir, vraiment. Vraiment. Ouais, c'était un sentiment. Les Américains ont voté pour W. Bush quand même deux fois. Je sentais venir le truc avec Trump.
Je pense que tout le monde s'est fait banane et a cru que « mais non, il passera pas ». Et en fait, vraiment, on a tous extrêmement mal à l'anus.
Du coup, il y a eu l'article de Numérama où on sait clairement que ce qu'on a vu, c'était en rapport avec nos idées. Et du coup, clairement, moi, je sais que ce que j'ai vu, ça allait avec ce que je pensais, où il allait jamais être élu. Et que je pense que ça va être la même chose en France, où je me dis « ah, c'est pas possible que le pire va arriver, mais... Un peu pessimiste, du coup.
Je suis pas mal sur Reddit, et ouais, sur Reddit, il y avait tout ce groupe qui soutenait Trump, c'était The Donald. Et je pensais que c'était des gros trolls, un peu comme Trump, en fait, et c'est ça qui m'a vraiment étonné.
En fait, j'ai pas l'impression qu'Internet m'a trompé. J'ai eu l'impression qu'Internet faisait valoir une idée, mais un peu plus sur un mode « faites attention » que « non, c'est impossible ». Donc, si tu veux, j'ai pas l'impression d'avoir été trompé, j'ai l'impression que... On a été mis en garde et on a perdu. Enfin, les Américains ont perdu.
Moi, je pense que si on était au Trump Hotel à Las Vegas ce soir et que tu nous disais est-ce que Internet s'est trompé, je te dirais non, il s'est pas trompé en fait. Parce que tout le monde à l'époque et le soir de l'élection était à fond pour Trump. Et en fait, ces gens-là se disent on avait raison. Et en fait, ils sont dans une vision du monde et de la vie où ils avaient raison, où tout autour d'eux disait qu'ils avaient raison. En fait, Internet, c'est aussi de quel point de vue tu te places. Et là, le point de vue qu'on a, nous, on est boulevard de Belleville, dans le 11e arrondissement de Paris, entre le 11e et le 20e, machin. Et donc, on se dit, mais Internet, c'est pas notre vision du monde, c'est une vision beaucoup plus large que ça. Et ça, effectivement, ça fait un peu bizarre à concevoir, mais je crois qu'il faut l'accepter aussi. Et accepter que, du coup, c'est pas comme si c'était une espèce de voix unilatérale qui nous dirait des choses, mais comme quelque chose de très mouvant, de très hétérogène, etc. Et ça, finalement, ça fait aussi la richesse d'Internet. C'est-à-dire que c'est à la fois une espèce de grand bruit global, quoi. Et du coup, ça, moi, ça m'intéresse, mais en tant que, citoyenne, journaliste aussi, parce que je suis journaliste, mais en tout cas, en tant que citoyenne aussi, ça m'intéresse de voir ces choses-là, parce que du coup, je ne veux pas rester cloîtrée dans mon monde à moi, en fait. Et ça me fait super chier que Trump soit élu, mais en vrai, je l'accepte pas comme étant une espèce de fatalité, mais comme étant un truc que je dois voir en face. Voilà.
Bon, c'était la troisième chronique de l'émission, qu'on vous a caché dans une FAQ. Donc, mademoiselle était très généreuse, mais elle a dit des choses très intéressantes, mais elle les a bien développées. Elle nous a fait trois feuillets. Il y avait un petit côté encore, ça faisait un peu comptoir, bref de comptoir, les réponses de ce soir.
Il faut savoir quand même que les conditions d'enregistrement ne sont pas optimales au Piole et que tout le monde gueule à fond.
Si, elles sont optimales, justement. Elles sont optimales pour que les gens se lâchent.
Quand t'as bu et que tu gueules, t'as vraiment l'impression que tout le monde est torché.
Donc certains qui sont sentis effectivement, qui sont complètement trompés, comme on l'a dit depuis le début de l'émission. Et d'autres, c'est intéressant, on avait quand même pas mal de réponses de gens qui disaient « moi j'avais quand même un pied de l'autre côté, donc chez les gens, les pro-Trump, etc. etc. » Et donc j'ai pu voir cet autre côté qui se développait, qui était présent. Donc il y a quand même des gens qui ont déjà cette sorte de gymnastique d'ouvrir l'œil.
Mais tout le monde a cette notion de... Si j'ai pu avoir un aperçu des deux côtés, c'est parce que j'ai construit mon réseau, j'ai construit ma timeline.
Donc on revient à cette sorte de discipline de gymnastique mentale.
De suivre des gens avec des opinions diverses, etc. Tout le monde est assez conscient de ça, j'ai l'impression.
Je pense que c'est surtout un switch qui s'opère. C'est que on est généralement, nous, plutôt progressistes, humanistes, etc. Et on pensait bêtement que tous les gens étaient, enfin, que la majorité des gens pensaient comme nous. Et en fait, on se rend compte que, non, en fait, on n'est plus la majorité. C'est juste ça, en fait. C'est le glissement qui s'est opéré là-dessus et le retournement du truc où finalement, avoir cette pensée progressiste, humaniste, on croit en l'humain, etc. Et on cherche, en fait, on essaie de faire avancer des choses vraies, la vérité, etc., plutôt que de la désinformation. Finalement, c'est juste plus la majorité. Ça veut pas dire qu'on est mort, ça veut juste dire qu'on est, on est plus majoritaire, quoi.
Tu rejoins un peu la plupart des gens qui disaient, on avait un côté un peu bisounours, un peu confort, un peu sûr de nous, quoi, finalement.
Ouais, c'est ça. Bah, tu te dis, non, mais tu peux pas, enfin, moi, je voyais les trucs de Trump. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui, enfin, un nouveau scandale, une nouvelle petite phrase qu'il avait dit, un nouveau truc qu'il avait fait, je me dis, c'est pas possible, le mec, il peut pas passer, en fait. Ouais. Il a tellement de casseroles. Et en fait, si, tu vois.
Donc ce qu'on pensait être du bon sens, c'est une forme de naïveté aussi, par rapport à justement tout ce qui a été créé, ces techniques justement du feu et du contre-feu et du buzz toujours plus gros que le buzz précédent pour tout noyer.
Je sais pas si c'est de la naïveté, c'est juste que tu te dis, mais on peut pas, tu peux pas élire un fils de pute déclaré, tu vois. Tu peux pas, normalement, tu te dis, ça va se voir, tu vois, c'est vraiment...
Et l'Amérique t'a dit, yes, we can.
Yes, we can, ouais, donc voilà, je prends acte, moi, perso, ok, je comprends.
Très bien, très bien. Et ben on va attaquer la troisième chronique. C'est un peu la fin de cette première partie qui était vraiment liée à l'actu. On va rester en tout cas dans cette thématique politique, puisqu'on va attaquer un sujet extrêmement léger avec Fibre Tigre, le fichier TESS.
Sujet numéro 3.
Le fichage généralisé de notre pays. C'est cool, c'est quoi?
Alors je me lève.
Je te bouscule.
Fibre est debout.
Fibre est debout.
Je me lève, je prends ma robe d'avocat. Et je m'adresse à vous pour un plaidoyer pour le TESS.
Pour le TESS.
Pour le TESS, avocat du diable. Monsieur le juge, l'âme, madame la procureure, Mélissa, particulièrement anxieuse et orientée contre le TESS, cher juré, car nous avons un petit public aujourd'hui, je suis devant vous pour prendre la défense du fichier des titres électroniques sécurisés dit TESS, injustement accusé ici par vos préjugés, et vous montrer que non seulement il est extérieur à vos craintes infondées, mais qu'en plus, vous tous, vous êtes coupables de dire n'importe quoi à son sujet. Et notez qu'à aucun moment, je ne prononcerai le mot de terrorisme.
Tu viens de le faire.
Oui. Entamons ce plaidoyer sur un ton léger et rions. Rions en comparant ce que notre République française, qui quand même, c'est nous, notre République française, saura peut-être de vous, et ce que de grandes sociétés américaines savent déjà de vous. Donc dans ce fichier, il y aura une photo d'identité. Facebook en a des dizaines. L'adresse mail, le téléphone, la date de naissance. Alors là, c'est la fiesta, Facebook, Amazon, Google, ils ont tous. Vos données biométriques, taille, couleur des yeux, bah, si vous êtes sur un site de rencontre, ça se déduit assez facilement. Ou ça peut aussi, vos photos Facebook, un algorithme peut les deviner sans vous. Votre famille, eh ben, même quand vous la cachez, ben, un œil sur les suggestions Google Plus ou Facebook ou Twitter montre que ça, c'est même pas un secret, ils les devinent malgré vous. Il reste l'empreinte digitale. C'est vrai que tout le monde n'a pas encore de iPhone, d'iPad, de MacBook Pro, d'Android dernière génération avec 14 biométriques, mais l'obsolescence programmée, nous la remercions, ne saurait tarder à faire rendre tout ça bien réel. Et il reste, c'est vrai, votre signature. Et oui, ça, on l'a, tout le monde ne l'a pas. Mais en 2016, c'est un peu le truc le moins utile du monde. Je fais souvent des fausses signatures, d'ailleurs. Alors, j'ai parlé
d'ailleurs, je ne suis pas vraiment avocat.
J'ai parlé de gens américains, mais j'aurais pu citer LinkedIn, Airbnb.
LinkedIn,
je te salue. La SNCF, votre fournisseur d'accès à l'Oresto. Ma carte de fidélité Carrefour Market qui m'a permis de gagner hier un mixeur gratuit. J'ai vendu.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du mon âme pour un mixeur gratuit, mes points d'achat. Alors tous ces anges bienfaiteurs au service de leur propre profit ont en plus des quelques éléments cités ci-dessus, vos données de localisation, votre CB, parfois votre historique de recherche, parfois l'intégralité de votre messagerie, c'est la fiesta. Le TES apparaît tout d'un coup tout à fait inoffensif. Ouin ouin, un pirate à capuche va hacker le TESS. Les gens sauront la couleur de mes yeux, se lamente Morniac sur notre forum qualité. Morniac étant un patrios. Alors, je sais qu'en France, on n'a pas une réputation de génie de la sécurité, mais excusez-moi, est-ce qu'on a déjà hacké Bercy? Est-ce qu'on a déjà hacké la Banque de France? Est-ce qu'on a déjà hacké DAZ, les permis à points? Parce que je sais que ça t'intéresserait. Personne n'est expert en sécurité ici, mais on sait une chose, une base de données de 60 millions d'entrées, c'est pas très gros. Voilà. Alors arrêtez de pousser des cris en parlant de fichiers monstres. Je veux clore les deux arguments majeurs des anti-tests, peur du hack et peur de dévoiler son intimité en disant que si vous avez peur qu'on hack le test, alors vous devriez avoir peur qu'on hack Amazon, Google, Facebook, ces entreprises qui par ailleurs n'en ont rien à fiche et vendent vos données à des inconnus ou à des puissances étrangères en ce moment même. Mais de quoi parle-t-on dans le fond ? La République numérique, c'est pas une subvention pour les start-up, c'est pas des discours à la télé, c'est pas un ministère des nouvelles technologies qu'on en a rien à faire. Je vois et je veux ce futur où je passe d'un pays à l'autre les mains dans les poches, car ma carte d'identité et mon passeport seront réduits à mon empreinte digitale. Je veux ce futur quand ma mairie envisage des travaux, elle m'envoie un mail pour demander mon avis. Quand la notion de dossier administratif n'aura plus aucun sens. Vous savez, toutes les fois, on vous demande une justif de domicile, une photocopie de votre carte d'identité, vous n'avez même pas de photocopieuse sous la main. Toutes ces graines de la phobie administrative qui font que vous repoussez les dossiers, vous n'en voulez plus. Que non seulement mes impôts soient prélevés à la source, mais que mes aides sociales soient intégrées à la source. En un mot, la fin des formalités, la fin de leurs aléas, la fin des dossiers perdus, des stagiaires qui comprennent rien, des formulaires avec des noms absurdes et moches. Et pourquoi pas voter par mail les lois qui me concernent, glisser vers la démocratie numérique totale du futur. Moi, j'y crois, je crois que ça arrivera dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans. Mais la première marche de l'escalier, n'en vous déplaise, Mélissa, on ne peut pas y couper. C'est cette carte d'identité numérique qui centralisera ces informations. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain et ce sera demain aux États-Unis. Face à cette vision que je conçois optimiste, il y a vos craintes. Aujourd'hui, le test existe en fragments, un bout à la police, un autre à la mairie, à moitié en papier, une moitié non accessible en ligne. Vous avez la pensée très française que cet embrouillamini administratif vous cache, que le jour où les flics viendront vous chercher, il y aura un moyen de s'arranger parce que le dossier va se perdre, que vous ne soyez pas identifié. C'est faux, c'est juste une perte de temps. Ils vous trouveront. Et les dossiers...
Et ils vous tueront.
Les dossiers administratifs, épais comme un gratte-ciel, repoussent de 5 ans, 10 ans les décisions de justice. Les failles du système, ils profitent à des Cahuzac, pas les petits bras que vous êtes. Je vais vous raconter une vraie anecdote qui me concerne. En janvier 2013, avant la sortie d'un certain jeu, j'avais peu de ressources. Sans que j'en fasse la demande, un cadeau de Noël est arrivé en janvier, le DF m'a écrit, et elle m'a dit qu'elle me mettait d'office sur un tarif spécial pour les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment l'EDF est en lien avec les impôts, avec les cartes bancaires, mais ça s'est passé. Et moi, j'étais très content que ça arrive. Donc, pourquoi espérer le pire ? Pourquoi ne pas penser que les algorithmes d'État ne seront pas comme le sont les pompiers, les hôpitaux, et puisque c'est le cas aussi, la police, c'est-à-dire pour vous accompagner ? Certes, nous vivons dans la dystopie cyberpunk des années 80, mais on adore ça. Les caméras de 1984 sont partout. Et la vente de notre intimité aux mégacorpos, elle est réelle. On se bat pour que tout le monde connaisse nos métriques. Et quand c'est la République qui a pour mission de vous faciliter la vie et qui veut vous porter dans cet élan, vous criez « ouin ouin, péténisme, fichage Big Brother, vous êtes des ringards !» Si comme moi vous voulez de cette République de la facilité et de l'optimisation du dossier administratif en un one-click, des in-app subventions dans vos entreprises de la vie, et si vous voulez embrasser une vraie démocratie délocalisée, chers jurés, alors donnez-vous-en les moyens, acceptez cette première étape et dites oui aux tests.
Merci Maître Tigre.
Cet homme est fou.
Merci Maître Tigre. Cet homme est fou parce que tout le monde déteste ce fameux fichier TES ou TES qui a été présenté et qui est défendu en ce moment. Mais je trouve qu'il y a des arguments.
Je ne sais même plus pourquoi j'étais contre. Il m'a convaincu.
Alors face à Maître Tigre, j'appelle à la barre Maître Procureur Benoît.
Ouais, qu'est-ce alors, il y a plein de choses.
Ce plaidoyer.
Je vais commencer par rappeler à quoi sert le TES. Parce que
on dit TES ou TES d'ailleurs ?
TES, je pense. Hein.
Parce que TES, ça fait vraiment TESI quand même. Hein.
Parce que Fibre a l'air de décrire le TES comme un truc qui va révolutionner nos vies en simplifiant toutes nos démarches administratives. C'est l'un des arguments forts de l'utilisation du fichier TES. Non, ça ne va pas arriver.
Ah
parce que le TES, c'est fait selon donc, le ministre et les gens qui ont voulu cette loi pour qu'en gros, il n'y ait plus de fraude des documents d'identité.
D'accord.
Donc, ils veulent que, en gros, quand tu viens faire un nouveau document d'identité, tu puisses, tu vois, il y ait tout ce qu'il faut pour pouvoir dire non, ça, c'est, vous avez déjà fait des demandes, c'est faux. Donc, ça ne va pas du tout simplifier l'administration. ce n'est pas ça.
Contrairement à ce que tu penses.
Voilà. Et l'autre argument étant, vous avez déjà donné toutes vos données aux grands sites,
mm-hmm.
C'est bon, donnez-les au gouvernement.
Ouais, c'est là-dessus que j'étais pas trop d'accord.
Ouais, sauf que c'est pas possible.
On peut pas. Enfin, on a accepté ça en cochant des cases, en disant oui, j'accepte les conditions d'utilisation sans jamais les lire. On peut pas accepter ça avec des trucs qui sont sur nos documents d'identité.
Donc pour toi, il y a une différence entre la République et une entreprise.
Non, mais lui, il dit ça me rappelle un peu les gens qui disent j'ai rien à me reprocher, donc c'est bon, prenez mes données.
Ah, le cancer, tout à
c'est
fait.
C'est un peu genre on les a déjà données.
ça va arriver, alors, faisons-le déjà, n'ayons pas de débat, n'en parlons pas. Non,
il rajoutait un petit côté nationaliste sur le truc, genre, bah, vous l'avez fait pour des Américains, faites-le pour la France. Tu vois, limite, avec le coq derrière et tout. Là-dessus, j'ai trouvé ça un peu border.
Non,
quand
mais,
même,
alors, en acceptant ce que dit Mélissa...
Non, mais si juste demain, ce que demain... tu décris de l'utilisation de TES ne va pas être ça.
Non, mais
c'est pas ça.
Ça va pas être ça demain matin.
Fibre, pensez à un possible derrière.
Ouais, mais si, oui, mais si demain, c'était la première marche. Demain, le fichier administratif, enfin, par exemple, le passeport où tu mets juste ton empreinte digitale à la frontière et tu passes, tu vois, au lieu de faire ce qu'on vit aujourd'hui, qui est quand même très difficile avec un mec derrière une guérite qui regarde votre passeport, qui regarde votre tête, tout ça.
Mais il y a toujours.
Eh ben, si demain, ça doit, ce futur existe, ça existera, on y va forcément. C'est inutile de dire que ça va, on n'y va pas vers ça. Ben, la première étape, ce sera quand même un fichier qui sera semblable au test, même si celui-là n'est pas prêt. Et peut-être même que le test, tu as raison, n'aura pas cette vertu-là, mais non. Il est là pour voir si ça va passer, et si ça passe, là on passe à la République numérique dont je rêve et dont vous rêvez aussi.
Mais donc tu... Enfin, je vois pas en quoi ça va... Parce que là tu parles du passeport et j'ai mon pouce et je passe sur une borne et il y aura toujours un mec préposé à la machine qui scanne les pouces des gens et qui va juste vérifier...
Mais non, pourquoi aujourd'hui
si t'as pas une photo.
Tu crois vraiment que tu vas pouvoir rentrer dans un avion sans qu'il y ait personne du terminal et ou de la compagnie et ou de l'administration française qui soit là?
Alors, d'ores et déjà, il y a des passeports où on peut mettre automatiquement un pas par sa
compte
digital et on passe, il n'y a personne qui te vérifie.
C'est vrai, il y a des passages de passeport automatisés aujourd'hui.
Et demain, tu...
Pour aller où?
Où tu veux.
Pas
aux États-Unis, c'est sûr. Mais
si, pour partir de France pour les États-Unis. Quand tu atterris, ils n'existent pas, mais quand tu pars de France, oui.
Voilà. Non, mais donc, on y va, tu vois. Et quand je vous parle des. On va vers le
mais du
le
coup,
prélèvement
toi, tu...
à la source. Et ben moi, je dis les aides à la source. On
non,
les
mais
aura
c'est comme si
hein.
Les États-Unis avaient commencé la NSA. Et tu disais, bon, bah, on y va, donc on y va.
Parce que là, ce que Fibre ne parle pas, il ne parle pas du fameux mot dont on ne doit pas parler.
Ce qui est aussi redouté, c'est l'utilisation de ce fichier par d'autres de futurs gouvernements qui pourraient dire on va plus s'en servir uniquement pour authentifier les gens sur la base de leurs documents, on va s'en servir pour les identifier. C'est-à-dire prendre leur empreinte
et faire quoi avec.
T'as parlé de l'argument de l'intimité, t'as parlé de l'argument du hack, de ces conneries-là, mais pourquoi t'as pas évoqué celui des dérives sécuritaires qui est pour moi le plus fort aux opposants à ce fichier-là?
Mais moi, je vois. Enfin, c'est pas que j'ai rien à me reprocher.
Moi, l'état d'urgence, j'adore mais...
Non, mais je comprends pas. Je veux dire, si demain les flics veulent te rendre pourrir la vie, Sylvain Palais, ils ont pas besoin du test.
C'est faux.
C'est faux. Et avec le test, ils pourront le faire à une échelle, ils pourront l'automatiser.
C'est faux parce que preuve, tu disais que s'ils voulaient te trouver, ils te trouveraient.
Ouais.
Moi, les flics m'ont cherché quand même pendant pas mal de temps avant de me dire que ça y est, on vous a localisé, mais genre ça fait 6 mois qu'on essaye, machin, etc.
Mais ça fait 6 mois parce que justement, il y a des formulaires papier qui s'entassent partout.
Non, ça fait 6 mois.
Soit ils trouvent pas, mais ça, au moins
que,
ça.
Ce que veut dire Philippe, c'est qu'en gros, la justice, elle sera rendue quoi qu'il arrive, sauf qu'elle sera rendue de manière plus rapide et plus fluide qu'avant. C'est ça qu'il dit en fait.
Ouais,
aussi.
Enfin, je sais pas, je suis partagé un peu sur.
Ah, donc t'es un peu troublé quand même.
Ah, ouais, non, mais parce que effectivement, moi, j'ai rien à me reprocher. Mais mais non, c'est vrai que, enfin, je vois parfaitement les dérives sécuritaires qui pourraient découler de ce truc-là. C'est vrai que quand tu les abordes, on te dit, ouais, mais toi, tu crois, t'es pessimiste, tu crois que gna gna gna. Et puis, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un individu de toute façon?
Non,
t'es pas tout seul.
Et puis, il faut voir quelque chose, c'est que l'État ne veut pas. Enfin, l'État s'auto-protège. Quand, par exemple, il y a eu les banques suisses, tout d'un coup, elles ont livré les noms des gens qui avaient des comptes en Suisse. Il n'y a pas eu une chasse aux sorcières en disant « Attention, on va tous vous prendre, on va mettre une amende à 400%, ce qui est le taux légal. » Ils ont dit « Bon, je vous avertis, on a les noms, venez nous voir, on s'arrange. » C'est ça qu'ils ont dit. Et vous avez un an. Il faut croire en la bienveillance de l'État à un moment.
Après. Oui, parce que si après ça, on dit venez nous voir, on s'arrange, et ensuite on te met dans un train et on t'envoie en Allemagne, okay, avec tous les gens comme toi qui ont fraudé, machin, etc., ou autre chose, on ne sait pas. On te met un petit badge sur tes vêtements pour qu'on comprenne que tu es un fraudeur, tu vois.
Un petit badge brillant.
Hein? Qu'est-ce que tu dirais de ça? C'est ça le pays que tu veux, toi, Fibre Tigre?
On va atteindre le deuxième point Godwin de l'émission.
Ton exemple est pas très, enfin ta métaphore est pas très probante parce que moi, tu me rassures pas quand on me dit que les banquiers qui avaient mis de l'argent en Suisse, on les a invités pour s'arranger.
Pas des banquiers, c'est des privés.
Ben, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, donc forcément, avec des passe-droits et ce genre de choses. Moi, en tant qu'individu tout pourri,
on va pas t'inviter pour en discuter.
On va pas m'inviter pour négocier.
Ah si, je suis pas d'accord parce que tous les boulangers, tous les petits commerçants font du black. Tout le monde le sait, c'est super toléré. Et quand ils ont des contrôles, on les titille un peu là-dessus, mais je veux dire, c'est pas le, le cœur du problème, tu vois. Il y a des mécanismes qui sont là et qui sont soutenables. Demain, les policiers peuvent pas débarquer chez tous les Français à 6h du matin parce qu'il y a pas assez de policiers, ils ont mieux à faire que ça. Je veux dire, à un moment, il faut se poser, arrêter d'avoir peur et vouloir aller de l'avant, quitte à prendre des risques, c'est vrai.
Mais problème, là, c'est pas
quand
si
je vous
c'est...
dis, je veux dire, Google, il a déjà tout sauf la signature sur nous. Google,
il fait pas les lois dans notre pays.
Il fait pas les lois, exactement ce que je vais dire.
Le jour où Google collabore avec un État, puisque ça existe, ce fait-là aussi. Bien justement,
Ça dépend à quel niveau.
C'est un gouvernement, il y a eu le bras de fer entre Apple et le gouvernement américain, le FBI, mais il y a eu plusieurs cas où des entreprises ont livré des informations personnelles à des sous injonction des autorités d'un certain pays.
C'est le principe d'Adopi aussi, et c'est pour ça qu'on s'est battu contre. Oui. C'est pas parce qu'ils nous empêchent de pirater, parce qu'il y a toujours des moyens de contourner. C'est le fait que le gouvernement puisse contacter un fournisseur d'accès et me demander mon adresse et mon adresse mail en fonction de mon IP, quoi.
D'accord, mais ça, en tout cas, vous le donnez, enfin, pour défendre un peu fibre, vous donnez beaucoup d'informations à des compagnies privées qui, indirectement, pourraient aussi les donner à votre gouvernement.
Demain, si Google dit qu'il va travailler de concert avec les services de renseignement français pour donner les données des Français, moi, je passe sur Apple.
Qui le fera aussi.
Non, Apple ne le fait pas.
Non, Apple le fait pas, justement. Ouais,
mais Google ne le fait pas non plus en France, pour l'instant.
Pour l'instant. Enfin, aux États-Unis, ils l'ont fait.
Alors, moi, j'ai une question, Fibre Tigre. Est-ce que, parce que tu parlais de ta situation précaire, n'est-ce pas, de grande précarité, de résident du 5e arrondissement avant que tu sois connu dans le monde du jeu vidéo, qui t'a permis d'avoir un abonnement EDF à tarif réduit. Ma question, c'est est-ce que tu as dénoncé cet abonnement depuis que tu croules sous la thune? Ou est-ce que tu continues à gratter comme le sale que tu es?
Les 3 centimes de réduction mensuelle.
Ou plus justement, est-ce que EDF a lui-même réajusté à l'inverse?
Alors, justement, j'avais l'espoir qu'il m'oublie, mais la magie de l'informatique a fait qu'ils m'ont remis au bon niveau dès que j'ai commencé à payer des impôts. Voilà.
D'accord. Et donc là, t'as applaudi. On s'est bien joué.
Et c'est ça que je veux vivre pour tout, tu vois. Je veux vivre
ça pour
tout.
Moi, d'une certaine manière, tout le côté paperasse, etc. Donc, Fibre, je suis d'accord que là, il faudrait virer.
La fin de la paperasse administrative, c'est séduisant. Mais
oui.
Moi, je suis d'accord avec Mélissa. C'est pas le TES qui va apporter ça, en fait.
C'est la première pierre de l'édifice.
Voilà, ce que dit Fibre encore une fois, c'est que le TES, c'est cette première marche vers une vision qu'il a d'une république numérique.
Non, parce que ça va même pas simplifier le truc aux aéroports, quoi. Ça ira pas plus vite, parce qu'en fait, le contrôle sera toujours
même. Imaginons qu'on ne parle pas de ce TES spécifiquement, mais qu'on parle d'une république numérique comme elle est rêvée par Fibre. Donc quelque chose où, effectivement, vous avez donné des renseignements à l'État, et l'État est extrêmement réactif avec vous, dans le bon sens ou dans le mauvais, mais en tout cas, tout est très simple, tout est très rapide. C'est-à-dire qu'à un moment, on vous dit, au lieu de recevoir vos impôts avec 20 milliards de cases à cocher ou pas cocher, on vous dit, voilà vos impôts sur tout ce que vous avez fait, oui, non, par exemple, mais tout est fait.
Ça existe déjà, ça s'appelle l'Estonie, et ils se font bombarder par les hackers russes depuis que ça existe.
Cela étant, les impôts, c'est quand même très simplifié aujourd'hui,
oui,
donc on peut être content, mais pour plein de choses, si vous avez des enfants, il faut les inscrire à l'école, il faut demander des aides pour les enfants, eux-mêmes, il y a des aides spécifiques à l'école et des aides spécifiques aux enfants, c'est un embrouillamini incroyable. Là, vous avez juste des enfants qui sont dans le TES, même s'ils ont 6 ans, c'est vrai, c'est horrible, je suis désolé, mais tout, vous avez des aides qui arrivent et ils vont à l'école, ils n'ont même pas de papier ni rien, vous n'avez pas de carte d'identité sur vous, vous êtes juste avec vous et vous-même, et je trouve que c'est super.
J'ai jamais de carte d'identité sur moi.
Moi, je pense qu'on peut simplifier l'administration sans passer par un fichier unifié des données des citoyens.
On posera la question.
Il y a déjà des efforts à faire.
On posera la question à nos auditeurs, en tout cas. Sur le forum, c'est 1, s'ils sont pour ou contre le test. Ouais. Et 2, s'ils n'acceptent pas le test, quelles seraient quand même des propositions, en tout cas, de réforme, ou pour créer quand même une république qui est effectivement un peu au XXIe siècle, qui est un peu plus moderne, en tout cas, que Fibre défend, en tout cas. On attaque tout de suite la troisième FAQ.
FAQ.
La troisième FAQ n'a rien à voir avec l'émission parce qu'on savait bien que cette émission allait être bien lourde. Donc on s'est dit, faisons un truc un peu facile qui défoule. Tapons sur Apple, par exemple. On a demandé à nos auditeurs ce qu'ils pensaient un peu des dernières actualités d'Apple, assez controversées, notamment leur dernier iPhone, leur dernier MacBook Pro et leur dernier bouquin à 400 euros.
Non, j'ai très envie d'acheter l'Apple Watch 2. Mais par contre, j'ai envie d'acheter l'équivalent du MacBook Pro chez Windows, qui est le nouvel Asus, et coûte plus cher que le MacBook, donc je crois que je suis une grosse victime du marketing, mais j'adore ça.
Bien sûr, je crois que j'ai vu un truc sur comme quoi ils ont sorti un album, un livre avec que des photos de leurs produits à 300$, un truc comme ça. Normal, je pense que le mec qui l'achète, j'hésite entre lui mettre une gifle et lui dire t'as ce que tu mérites.
L'un ou l'autre. Un bouquin de design, ça coûte une blinde quoi qu'il arrive, ça coûte super cher.
Apple est quand même un leader là-dedans. Ça a toujours été, genre, il a toujours donné des tendances. Pour un studio de design, c'est une brindille, c'est rien. Donc au final, le bouquin à 300 balles, bah ouais, non, en fait, au final. Pour tout ce qui est MacBook et iPhone 7, le fait de virer à la connectique, ils ont voulu, comme d'habitude, se placer en précurseur. Sauf que c'est une technologie un peu bizarre. C'est Thunderbolt, si je me souviens bien. C'est que tu peux connecter un écran, ta machine à café, n'importe quoi avec. Ils ont jamais réfléchi que les gens ont plein de besoins sur une prise. Et donc, ils se sont retrouvés bloqués là-dedans. Et ça passait super bien quand tu regardes la vidéo d'un MacBook Pro d'avoir une prise. Et la mise en application est mauvaise.
Oui, je pense que Apple vendrait n'importe quoi avec une paume dessus. C'est voilà, une balayette, un torchon. Enfin, et il y a des gens qui sont prêts à acheter ça. Donc, tant que les gens sont prêts à l'acheter, ils pourraient vendre n'importe quoi.
J'ai moi-même un iPhone 7. Et... je pense que j'ai parié sur un mauvais avenir. Je ne vois pas Apple... Ah non mais oui. Je suis développeur et en fait, je vois pas Apple s'en sortir. Je pense que Microsoft va les défoncer.
Moi, beaucoup, je suis pro-Apple, j'ai toujours acheté Apple. Sauf que ça devient vraiment n'importe quoi. Par exemple, le dernier MacBook Pro, clairement, je l'achèterai jamais, mais c'est juste une question de tarif, c'est vraiment indécent. Sur le MacBook Air qui est sorti avant, un seul port, donc il faut choisir entre un périphérique et le recharger. Et le bouquin, je pense que j'en parle même pas. Enfin, là, on est vraiment sur le summum de l'indécence. Quoi. C'est...
Bah ouais, moi, ça me fait chier de pas pouvoir regarder des DVD sur mon laptop, hein, tout simplement. Déjà, ils m'ont un peu perdu ce jour-là. Chaque fois qu'ils enlèvent une prise, ça me prend un peu la tête. Après, c'est pas la fin du monde, hein. Mais c'est chiant, quoi. C'est juste. En fait, ils sont dans un truc tellement épuré que ça devient inutilisable pour quelqu'un qui n'est pas professionnel là-dessus, quoi. C'est relou, quoi. Après, ça m'empêche pas de dormir. Hein.
Dure question, parce que j'aime beaucoup Apple. Mais ouais, effectivement, ils innovent plus trop et ils abusent vraiment sur les prix.
Bah, moi, je fréquente un peu ce que j'appellerais de façon condescendante des Apple fanboys. Et c'est mitigé. Il y en a certains qui restent fans et qui considèrent que c'est un peu la sublimation et que c'est normal, c'est Apple, ils ont toujours été comme ça. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont complètement dans le mur, mais je pense un peu Apple, pour faire un parallèle un peu douteux, c'est un peu comme Nintendo, ils ont une grosse fanbase. Et s'ils sortent un bouquin à 300 balles, je pense qu'ils l'ont, 400 balles même, je pense qu'ils l'ont un peu marketé. Bah, je pense qu'ils vont trouver leur cible, mais ouais, toi, petit consommateur, c'est un peu chaud quoi.
Moi je t'avoue que je suis pas trop dans cette sphère là, ça me débecte depuis plusieurs années, donc je suis pas trop. Effectivement, j'ai suivi un peu les trolls Lolo sur la perceuse sur l'iPhone pour avoir sa prise jack, etc. Je suis ça de loin. Pour moi, j'ai l'impression que c'est tellement cher et que ça sert tellement à rien à côté de ce qu'il y a d'autre que je sais pas, ça m'intéresse pas plus que ça.
Ils se sont perdus il y a très longtemps. Je dis pas ça parce que tu es en train de tenir un iPhone 7, Daz, mais ils se sont perdus il y a très longtemps dans les méandres de l'argent et du consumérisme.
Bah, je pense que ça fait quelques temps qu'ils se sont barrés en vrille, mais c'est surtout le Johnny Ive, où on le voit beaucoup dans les vidéos, mais beaucoup moins dans les interventions d'Apple. Donc je pense qu'il est un peu mis de côté et qu'ils avancent en freestyle. Donc c'est peut-être lié.
Je pense pas qu'ils soient en train de se perdre, mais je pense qu'ils sont en train de trouver un moyen d'être rentable. En fait, ils sont assis, ils ont leurs produits, ils ont leur popularité, les gens achètent, peu importe le prix.
Je pense que là, ils sont plus en mode innovance, en mode actionnaire, je suis... ouais, ils sont perdus, mais... Il n'y a plus en fait ce Elon Musk, entre guillemets, Steve Jobs, hein, ça, ce mec qui tient en fait tout ça, qui tient une vision. Du coup, les gens ils suivent une sorte de logique normale, c'est pas étonnant.
Un truc, c'est par rapport au bouquin qui va coûter quoi, une centaine de dollars, un truc comme ça. Franchement, on m'offre ça pour Noël, j'ai vraiment les boules. Même si je suis fan d'Apple, on m'offre ça, c'est quand même un gros foutage de gueule de se dire, ok, non, le geste est beau parce que, ok, l'objet il va coûter cher. Mais d'un point de vue design, c'est pas non plus une révolution, non, c'est pas ça quoi, c'est pas ça le design, c'est pas des produits informatiques qui ont revêtiné l'univers. L'iMac à l'époque, certes, si tu veux, mais d'avoir un produit Apple sur chaque page et se masturber dessus, c'est vraiment abusé quoi.
Ouais, je pense qu'ils commencent à. Je vais pas dire qu'ils sont cuits parce que ce serait abusé, mais ça commence à sentir mauvais quand même.
Moi j'ai jamais été pour Apple, mais j'ai toujours beaucoup trollé sur Apple. Donc ça alimente mon troll, donc c'est très bien.
Je propose que le prochain, il y ait juste la barre espace et rien d'autre. Et un écran. Après tout, pourquoi pas, hein. et que tout le reste faut l'acheter à part, tu sais. Ah bah tiens, je vais prendre un clavier QWERTY, bah ouais, mais faut l'acheter, tu vois, parce que sinon j'ai que l'écran et la barre espace.
Non, je pense que Apple il continue à vraiment nous la mettre d'une manière outrancière, et on dit oh dis donc, hey, ça fait un peu mal, mais on continue à acheter, donc bon, ils ont raison en fait.
Ils ont raison en fait.
J'ai beaucoup aimé la barre espace. Je pense que le mec était loin, loin, loin déjà. Il était à un degré 8,6, je pense. Et c'était pas mal cette sorte de barre espace. Ça fait du bien de taper facilement quand même à un moment.
Ouais, bah c'est pas trop compliqué en ce moment sur Apple. C'est vrai que c'est très difficile à lire ce qu'ils font en fait.
Ouais.
Et je le dis avec.
Toi, Daz, ancien expert S-Pomme.
Ancien, même actuel, je les suis, mais c'est vrai que même moi qui connais toutes les gammes des produits, etc., j'ai un peu de mal à décrypter ce qu'ils font.
Ouais.
Simplement parce qu'effectivement, ils t'annoncent un truc avec l'iPhone 7, ils font le contraire dans le MacBook Pro qu'ils présentent un mois après.
Ouais.
C'est assez compliqué de se dire que tu payes ton iPhone 7 avec des écouteurs que tu ne peux pas mettre dans ton MacBook Pro que tu as acheté derrière, parce que la prise qu'ils ont fait sauter sur l'iPhone, ils ont décidé de la garder sur le MacBook, mais pas le port USB en fait. C'est très bizarre, c'est très très bizarre, très difficile à lire. Il y a un des intervenants qui évoquait le cas de Johnny Ive, qui est donc le senior VP designer chez Apple.
Ouais.
Moi, je suis à l'inverse de ce que lui pense, parce que lui, il pense qu'on le met de côté.
Non, c'est l'inverse.
Non, c'est lui qui se met volontairement en retrait. Par contre, je crois qu'on lui donne beaucoup, beaucoup trop de liberté à ce brave garçon. Et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, en gros, du moment que c'est design, quitte à faire des non-sens marketing, quoi. Je pense que
Quelle voix.
Ah, quelle voix, j'adore. Ah, le mec te vend une barre à mine, attention. Hein.
Il te vend le TES.
Ah oui, si tu le marketes comme ça, ça va marcher, c'est sûr.
Mélissa, toi qui a toujours été assez pro-Apple, qui a carburé que à l'iPhone et au MacBook et qui était très satisfaite de tout ça, t'achèterais les prochains produits?
Le livre, jamais.
Alors, juste une parenthèse sur le livre, un de nos auditeurs nous disait. Effectivement, dans le milieu de la presse pro-design, il y a beaucoup de bouquins qui sont très très chers. Et il corrobore avec une deuxième source que j'avais vue, qui était le DA d'une maison d'édition de manga, qui a commandé le livre et qui a dit « Vous pouvez me juger maintenant ». Et en réponse à son statut, il y a une discussion autour de ça, où il disait « Mais effectivement, dans le milieu, ce genre de livre coûte extrêmement cher. Donc le livre d'Apple n'est pas si cher que ça. C'est juste qu'il est présenté comme un produit grand public, alors qu'il ne l'est pas vraiment ».
Donc ouais, le marché du livre cher, c'est effectivement, il te donne un aperçu de ce que serait ta vie si tu étais toi aussi créa, designer, machin, etc. Je suis pas sûr que ça soit comme ça qu'il faille communiquer, tu vois.
Ouais.
Surtout en ces temps troublés où on parle d'élite, machin, où toi t'arrives avec un livre à 300 balles en disant non, mais c'est le prix 300 normal.
Balles pour la petite taille.
Ah, parce qu'il y a deux tailles.
Oui, il y a la version plus à 400. Ouais. Bah, c'est un produit Apple, il y a deux tailles. Ouais, il n'y a pas de prise jack d'ailleurs. Sylvain, toi qui es un peu l'androïdos du groupe.
Écoute, j'ai bu cette FAQ comme du petit lait. Et j'ai remarqué quelques fanboys qui retournent leur veste après des années de bons et loyaux services. Écoute, j'ai presque envie de
dire avec plaisir.
I told you so.
Mais qu'est-ce que tu avais toldé exactement?
Moi, j'avais toldé que
pas trop d'anglicisme dans l'émission, bien sûr. Ni de barbarisme.
Que cette fièvre consumériste et élitiste autour de produits à la pomme était. Enfin, que tout le mythe qui privilégiait la forme plutôt que la fonction allait être la perte d'Apple. Tout simplement.
Ah, donc tu penses vraiment, toi, tu partages l'avis des mecs qui disent qu'une société avec je sais plus combien de centaines de milliards de dollars de cash flow uniquement, peut réellement fermer la boutique du jour au lendemain.
200 milliards de dollars de cash flow.
Non, mais on parle du cash.
Je pense que Sylvain paraît plutôt de tomber en disgrâce d'un point de vue popularité auprès des consommateurs, avertis ou pas.
Okay. Non, mais tu vois l'exemple de Johnny Ive qui commence à faire un peu n'importe quoi. C'est, tu vois, typiquement le délire de designer qui privilégie la forme.
Je pense qu'il
fait
pas n'importe quoi. Je pense que depuis toujours il fait ça. Sauf qu'avant il y avait des gens qui lui disaient à un moment donné, ouais, hey, Johnny, arrête de déconner, rajoute un port USB, putain, on va se faire tabasser. Et là, en fait, ils disent, ouais, vas-y, yalla, tu vois, on verra ce que ça donne.
Fibre, qui utilise un iPhone.
Ouais, mais qui a un PC pour travailler.
Donc toi, t'es un sans mêlé, toi.
Voilà.
T'es moitié moldu, moitié sorcier.
Opportuniste.
Sans de bourbe.
Disons que je pense que ça pourrait faire l'objet d'une chronique. Apple, ça a toujours été des produits pour des pros. C'est-à-dire, là où ils ont vraiment fait la différence.
Et c'est fibre.
Je sais pas si ils ont vraiment inventé le WYSIWYG, c'est-à-dire quand tu avais un beau dessin avec une belle typo à l'écran, quand tu l'imprimais sur une imprimante, c'était pas une imprimante à aiguille qui te sortait le truc en lettrage normal. T'avais vraiment, tu pouvais imprimer vraiment ce que tu avais à l'écran. Et c'était effectivement ce qu'il y avait dans les rédactions professionnelles. Mm-hmm. Le mot a été dit. Et ils sortent des produits qui sont faits pour des pros, des entreprises. Effectivement, nous, les particuliers, on se la joue un peu pro et on achète leurs produits pro. Mais ça reste des produits pro. Et effectivement, c'est des beaux coffee table books qu'on trouvera dans les salles d'attente des PricewaterhouseCoopers ou des startups qui ont de l'argent. Et c'était ça le but. Et si le but, c'est
donc là, tu parles du livre en particulier.
Voilà, quoi. Du livre. Ouais. Mais on pourrait même étendre ça, excusez-moi, à l'iPhone 7.
Je veux dire, j'adore quand tu dis iPhone.
Ouais, moi aussi.
Ça,
ouais.
À chaque fois, ça me fait sursauter un petit peu le.
Par contre, j'ai une paupière qui. Il dit pas MacBook. Et donc, je trouve ça un peu.
Voilà. Mais c'est Facebook. Cohérence. Bon, c'était ma mini analyse. Voilà.
Très bien. Ouais. Apple, on pourrait en faire plus qu'une chronique et plus qu'une émission. On pourrait en faire une
entreprise.
Un podcast entier. Allez, on attaque tout de suite la toute dernière chronique. Et pour finir cette spéciale politique, c'est Mélissa qui va tout simplement réformer tout le système électoral français.
Sujet numéro 4.
Françaises, Français, inventons le scrutin 2.0.
Chers auditeurs de 404, nous avons vu précédemment, grâce aux interventions de mes camarades, comment la France pouvait mal tourner. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour tenter de trouver ensemble des solutions. La France ne peut pas bien se porter si l'UX du vote n'est pas repensé dès aujourd'hui. Pour cela, nous vous proposons donc la réforme qui empêchera les Français de dire « tous pourris ». Il est temps de voir venir pour éviter le scénario catastrophe de Sylvain et de ne plus voter du jour au lendemain.
Une chronique qui démarre tout en modestie.
Tout en modestie.
Avec le cœur de l'armée rouge, tranquille.
Car Studio 404 Consulting est fier de présenter la réforme pour un vote 2.0. Parce qu'on passe vraiment au 2.0.
Ouais, on s'était promis que 2.0 c'était nul, mais ça
s'y prête vraiment. Un vote en continu pour éviter le vote indexé sur votre humeur des trois derniers mois et les dérapages des uns et des autres. Rappelez-vous de Trump, rappelez-vous de la primaire à droite, pour que vous puissiez enfin connaître les idées et les programmes de chacun. Cela passe par plusieurs fonctionnalités que nous allons déployer au fur et à mesure.
Alors, le programme de Mélissa 2017.
Ça commence avec Google. Un moteur de recherche qui interroge les programmes complets avec des mises à jour dès qu'une proposition est faite par un candidat.
Carrément.
Ensuite, Vinder, un jeu où tous les programmes complets sont donc mis en ligne, proposés aux utilisateurs, les Français, via un push. Ils seront invités à swiper les propositions pour trouver le candidat qui leur convient le mieux. Baisse du chômage, swipe à droite. Suppression de l'ISF, swipe à droite. Augmentation du temps de travail, swipe à gauche. Baisse des retraites, swipe à droite. À la fin, ne reste que le candidat dont vous avez swipé le plus de propositions. Les autres se classent automatiquement en fonction de l'adhésion à vos idées.
Il est bien ce Vinder.
On aime Vinder. Si un candidat se retire de la course, le classement est mis à jour en fonction de son ralliement. Un nouveau jeu vous est proposé en fonction des propositions que vous n'aviez pas validées précédemment. Cette fonctionnalité marche hors ligne et est suggérée dès que vous êtes dans les transports ou dans votre lit. Un historique de votre choix est fait pour que vous puissiez comprendre mieux vos positions. Ensuite vient V-Check, car chaque programme doit être vérifié pour souligner toutes les impasses ou toutes les trop belles promesses. Le programme donnera lieu à des graphes permettant d'évaluer les conséquences sur votre budget quotidien, sur votre temps de travail, sur vos congés payés, sur votre retraite, sur le prix de l'essence, sur le prix du pain au chocolat. Copé a déjà été éliminé à cause de ça, c'est pas grave. Ensuite vient un taux Elite Dangerous pour tout candidat se positionnant comme celui contre les élites. On établit une fiche de personnage avec son facteur élite, normal sub, fils de, fille de, fortune personnelle, lien avec des banques, etc.
Tu l'aimes bien ce truc-là, Daz, hein.
Ouais. Pas mal, j'aime bien le terme. Ouais.
Concernant le vote, donc le vote live, le vote se fait désormais en continu. Chaque nouvelle déclaration en forme de promesse pourrait être validée ou faire perdre des points dans le classement des candidats précédemment réalisés. Le module de vote s'ouvre chaque fois que vous approchez de la cuvette de vos toilettes dans votre appartement, car l'appli est connectée à Google Home, naturellement.
Maisonéo.
Maisonéo. Un changelog des avis des candidats. Que disait Ségolène Royal sur l'avortement? Que disait François Fillon sur l'homosexualité? Que disait Jean-François Copé sur les pains au chocolat? Comme tout changelog d'app, on peut voir en fait quand une feature d'un candidat a été modifiée, combien de fois. Un push alerte est envoyé chaque fois qu'un candidat retourne sa veste sur une proposition précédemment faite dans la campagne. Chaque déclaration sur un sujet fera varier un delta de déviation par rapport à la promesse initiale, pour bien se figurer à quel point les mecs changent d'avis.
Elle rigole pas, Mélissa.
Je sais. Ensuite vient V-Plan, une carte qui permet de dire en temps réel comment les candidats se classent en fonction des régions, des classes d'âge, des catégories socio-professionnelles des électeurs. Fini les surprises du type « Ah merde, on avait oublié les quatre autres radis, notre président sera Fillon ».
Ensuite, nous avons V, discourse. Chaque intervention ou discours des candidats est analysé. Ces big data permettent de déterminer quels sont les mots secondaires que l'on n'entendait pas assez derrière le bruit des grandes propositions de la campagne. Avez-vous entendu le mot identité depuis que Nicolas Sarkozy ne fait plus campagne ? Ensuite vient Facebook. Ouais. Pour ceux qui voudraient rendre public leur vote et encourager les autres à faire pareil, à chaque vote intermédiaire, vous verrez un message s'afficher. Vous avez voté, félicitations, partagez cette activité. Ce qui pourrait donner, j'ai aimé la proposition de Fibrotic 2022, votez aussi pour lui en likant ce statut. Si, alors, par contre, si vous ne participez pas à tout ça, si vous ne tenez pas au courant régulièrement et ne consultez pas toutes ces applis, un email vous sera envoyé rappelant que vous n'avez pas évalué les idées des gens qui dirigent vos vies au quotidien. Un ranking sera fait des meilleurs utilisateurs, ceux qui se tiennent le plus au courant, justement, qui partagent le plus d'idées qu'ils apprécient. Ceux qui sont le mieux classés obtiennent un badge certifié lorsqu'ils votent au premier tour, quand les programmes sont mis en ligne. Si vous ne votez pas, Mark Zuckerberg est actuellement en discussion avec la France pour bloquer votre compte Facebook pendant 24 heures pour non-participation. Une simple lecture des programmes par reconnaissance visuelle des candidats en lice peut débloquer votre compte. L'option vote blanc est proposée, tout en signalant qu'elle ralentit votre progression dans le classement car cela manque de lisibilité. En fait, vous foutez la merde. Si vous ne votez vraiment, vraiment pas et vous décidez de laisser votre compte bloqué, vous en foutez. Les gens qui font partie de vos contacts mail ou de vos amis Facebook considérés comme influents du vote verront leur vote attribué pour vous. Toutes ces applis sont naturellement disponibles sur web et mobile. Les mises à jour se font automatiquement sans besoin d'acheter un iPhone 12 pour le faire fonctionner. Les résultats ont lieu le 21 avril, tous les 5 ans, mémoire du jour où l'État a souhaité refondre le système de vote au vu des résultats incohérents avec les principes de la République. Si vous n'avez pas tout compris, passons donc à la démo. Chers auditeurs de 404, pour que vous puissiez donc vous faire une idée du fonctionnement de notre réforme, voici une démo. Les programmes de Sylvain Palais, La Mua, Fibre Tigre, Daz et Ghislain Fontana seront soumis à l'appli. Fibre Tigre générerait une alerte retournement de veste par jour et se rallierait à La Mua, le candidat du consensus. Daz insulterait régulièrement les Français dans les meetings. L'analyse de ses discours ferait prendre conscience de son mépris bienveillant. Il se rallierait à La Mua en l'échange d'une playlist de campagne réussie.
Le mépris bienveillant.
Sylvain Palais aura rendu un pavé de 1236 pages d'idées après un benchmark poussé de toutes les propositions dans le monde afin de répondre au mieux à l'appel d'offres France. Un programme illisible ne serait jamais swipé complètement par les Français. La bataille se jouerait donc entre La Mua, le candidat centriste, et Ghislain, le candidat de l'action. Ghislain étant trop pris à produire toutes les émissions de radio de France, l'influence de La Mua sur les réseaux générerait beaucoup de votes par défaut pour lui. La Mua est élu. Pas de surprise donc, notre réforme fonctionne.
J'approuve. J'approuve cette simulation.
Un petit mot de fin, cependant. Ce qui me fait peur désormais, chers auditeurs de 404, c'est que personne n'utilise la multiplicité d'outils de cette réforme. Pourtant pensée pour que vous ne cédiez pas au slacktivisme et que vous fassiez remonter le nombre de votants en avril 2017. Tout ceci n'est pas un jeu. C'est ce qui va se jouer sur le cours de notre vie pour les années à venir.
Oh là là, quel programme. Alors là, Mélissa, tu nous as fait un... J'ai vu Daz souvent faire la bouche de Daz, le not bad d'Obama, genre.
Il y avait des trucs, ouais, mais je me suis un peu perdu dans l'écosystème d'applications. C'est vraiment le bordel, quoi.
Il y a toute une page à penser pour que ce soit. Mais c'est une appli où tout est intégré.
On dirait le pack Office 365. Il y a un milliard d'applis, tu sais pas trop pourquoi.
Oui, mais en fait, il y a des mesures phares.
On va dire les mesures phares. La première, Mélissa te parlait d'un vote continu, ça veut dire que les campagnes durent plus longtemps et suivant des propositions, des sujets précis, les candidats s'affrontent dessus, on leur met des votes partiels.
Pendant toute la campagne,
est-ce que vous êtes pour ?
C'est-à-dire qu'à la fin de la campagne, t'as pas besoin de valider.
Exactement.
Le 21 avril, tout ça se valide.
Tout seul, t'as
pas besoin de... Si tu veux tout changer, il faut tout rechanger, mais...
Ça veut dire qu'on peut voter spécifiquement sur... Par exemple, Mélissa, tu m'arrêtes si je me trompe. On peut voter pour le budget de la recherche, on peut voter pour la politique d'immigration, on peut voter sur les retraites, on peut voter sur des points très précis à différents moments de la campagne, et ces points s'accumulent petit à petit. Donc c'est un vote, on va dire, continu et partiel.
Mais qui détermine l'ordre dans lequel on te propose de...
Bon, c'est accessoire.
C'est un algorithme aléatoire. Enfin,
on va dire que les candidats...
Ce qui fait que tu n'es pas dans une bulle.
Moi, je trouve ça hyper séduisant, mais du coup, pourquoi on vote encore pour des candidats ? Et pourquoi on vote pas pour les propositions que le peuple préfère ?
Il faut bien que la
et on désigne un mec pour les appliquer.
Mais en fait, tu votes à chaque fois qu'il y a des propositions. Donc, si jamais t'aimes la proposition de Juppé sur tel truc et la proposition de François Hollande sur tel truc, tu peux swiper à droite. Ce qui fait qu'à la fin, ça te fait ton classement.
Tu voudrais morceler
le score total de la France, c'est la proposition sur les retraites de Juppé et la proposition sur le chômage de Fillon.
il faut choisir un des deux candidats.
Bah, alors ça peut sortir un rapport qui dit ça, tu vois.
Un robot, par exemple.
On pourrait inventer François Juppé. On peut inventer le rapport qui sort de ce truc-là à la fin, le 21 avril, qui dit voilà les trucs que vous devez appliquer parce que c'est ce qui a gagné.
Le vote n'est jamais un vote, on n'est jamais 100% d'accord avec son candidat, mais encore une fois, ouais. C'est le candidat qui aura eu le meilleur score sur une longue durée, sur beaucoup de points. Qui l'emportera, contrairement au candidat aujourd'hui qui, en gros, fait une campagne très violente pendant 6 mois où le buzz
six
l'emporte
mois,
un peu sur le
point. T'es gentil. Hein.
Oui.
Oui, et puis en plus, le candidat, quand il est élu, c'est pas « Ah, ça y est, c'est bon, je vais pouvoir faire ce que je veux », puisqu'il est resoumis au contrôle continu immédiatement. Quoi.
Exactement. Bah voilà, mais ça veut dire qu'il pourrait se faire déselire ou pas ? Genre « Ah, t'as menti
ah. !»
Parce que c'est
le prochain plan de notre.
Ah d'accord.
Prochain plan. Là c'est le plan juste de Mélissa pour réformer voilà.
Ensuite une fois
élection.
Qu'il est élu, on fera...
Mais en fait ce qui m'inquiète un petit peu là-dessus c'est que bon actuellement donc on voit par exemple la mauvaise foi dont fait preuve le Front National ou ses sympathisants par rapport à ce qu'ils font sur les réseaux sociaux c'est pour permettre d'améliorer leur visibilité. C'est-à-dire que potentiellement si la nouvelle méthode c'est ça, tu pourrais te retrouver à rencontrer des gens dans des bars qui te saoulent exprès pour ensuite avoir accès à l'application et pouvoir te faire swiper gauche ou droite.
Impossible, puisque le fichier TES sera passé.
Il y aura ton empreinte digitale.
Ton empreinte digitale pour se connecter.
Fibre n'a toujours pas pris la parole.
Tout à fait, mais je pense qu'il a une réponse en 3 points.
Déjà c'est très surprenant. J'aurais jamais pensé à tout ça. J'ai une vision différente. Mini parenthèse, effectivement, je pense que ça ne peut pas se mettre en place si il n'y a pas le fichier TES. Non, mais c'est évident. Mais,
j'ai raison.
J'espère que...
Vous avez tort.
Non. Par contre, là où tu es idéaliste, et à mon avis, tu ne vois pas la réalité des choses, c'est que beaucoup de gens votent parce qu'ils trouvent le candidat beau. Où ils aimeraient coucher avec lui.
Non, mais j'adore quand Fibre débarque avec
beaucoup
de théories.
Beaucoup. Selon une étude américaine.
Et c'est non. Justement pour ça que ce truc est mis en place. Parce que les gens disent souvent qu'il n'y a pas eu de débat d'idées. Il y a que
non, tout, mais, tu vois. Mais c'est très sain de voter pour un candidat parce qu'il a l'air d'un chef ou d'une chef. Parce que c'est quelqu'un qui, après, va donner des claques.
Ce n'est pas pour ça que Donald Trump a été.
Mais oui, mais parce qu'il faut quelqu'un qui donne des claques à Poutine en face. Parce que c'est un président qu'on est. C'est un leader d'une nation.
Il adore Poutine.
Trump. Tu parles de Trump, le mec, il lâche Poutine.
Je parle pas de Trump, je parle du président de la France.
Il y aurait la télé aussi, il y aurait toujours la télé dans sa version. La télé existe, les meetings existent, les débats existent.
S'il y a une question qui dit, est-ce que vous pensez que, au niveau. Est-ce que vous pensez qui est le plus beau? Est-ce que vous pensez. qui coucheriez-vous avec Fillon, par exemple? Est-ce que vous pensez que Fillon serait capable de donner des claques à Poutine, tu vois, par exemple? Et moi, c'est des questions très importantes.
En plus, il faudrait introduire l'émotion dans le vote.
Il faut faire un petit peu de télé-réalité, tu vois, comme dans une ambition intime. Je trouve que c'est pas con.
Il salit tout avec ses mains, Fibre, là.
Ouais, c'est clair.
Dès que tu touches quelque chose.
Feriez-vous un Airbnb avec Jean-François Copé?
Parce que croire que la politique, c'est des idées. Là, c'est une méga bulle filtrante. Genre, c'est une illusion totale. Je pense.
Mais à la fin,
tu
sais, c'est des gens qui ont des idées, qui font des réformes sur des idées. Enfin, tu vois, c'est des idées. Les propositions de loi.
En plus, quand
idées,
on fait les constats, il y a pas beaucoup d'idées, quoi. Et il y a pas beaucoup de gens qui tiennent leurs promesses.
Mais lis les 1000 pages de programme de Bruno Le Maire. Certes, il n'est plus candidat, mais il y avait des idées. Il y a des programmes.
Et d'ailleurs, Bruno Le Maire est pro-TES.
mais aujourd'hui, la manière dont tu choisis un vote, c'est d'abord ce qu'il y a dans son programme. Et dans son programme, c'est pas marqué moi. Je vais mettre des claques à Poutine. Moi, j'ai envie de coucher avec vous. C'est pas marqué dans les professions.
Mais personne ne lit les programmes. Je ne comprends pas. Sur quelle planète vous vivez ?
Mais justement, en fait, c'est ça le problème.
Ce que dit Mélissa, c'est que si les programmes sont distillés durant une sorte de contrôle continu pendant 5 ans et qu'on a un change log de ces programmes pour voir quand est-ce qu'ils ont été modifiés, quand est-ce qu'une personne a changé d'avis dessus.
Vous pensez que c'est vraiment bien que lire les programmes et voter pour les gens, c'est bien ?
Moi, j'aimerais pouvoir benchmarker les programmes comme je benchmark des écrans Asus sur le Bon Coin, tu vois.
D'accord.
Avec la même passion.
Franchement. Ouais, avec plutôt la même passion, ouais. Et les mêmes plutôt détails.
Et donc là, on revient à ce que dit Mélissa, c'est que c'est un travail du X, donc un peu de design des programmes, c'est de les rendre plus digestes, les morceler.
Non, mais ce qui m'interpelle, moi, c'est plutôt les équipes qui permettent d'expliquer ce qu'il y a dans un programme. Ça serait quoi, un organisme gouvernemental qui passerait en revue à la moulinette tous les programmes de tous les candidats sans aucun parti pris, un truc vraiment.
On pourrait forcer les candidats à suivre une sorte de nomenclature.
Robots,
comme
les robots, tu peux les niquer. Il suffirait que ils écrivent d'une certaine façon pour que le robot comprenne.
Non, mais il faudrait qu'un candidat soumette et valide son programme à un moment. Sur tel paragraphe, il a 1500 mots, comme on a 3 minutes de temps de parole pour chaque candidat, et que toutes les propositions sont un petit peu normées et qu'elles soient mises côte à côte, par exemple.
Comme une fiche produit.
Je trouve qu'en 5 ans, on ne peut pas appliquer un programme en 1000 points, et il serait bien de lire les candidats autour d'une seule grande idée, et c'est ce qui est là aujourd'hui.
Qui est le plus beau ?
Non, mais par exemple,
prenez
François Hollande. François Hollande, il n'a pas beaucoup de popularité, mais François Hollande, il a fait un truc remarquable dans l'histoire de la France, c'est qu'il a autorisé le mariage pour tous. Et ce mec-là, il a dit, je vais le faire. Le mec, il a dit, je vais faire ça. Il l'a fait, Et vous allez voir que dans 50 ans, on se souviendra plus de lui que de Sarkozy.
Mais c'est ce que disait Mélissa, c'est qu'à un moment, il y a aussi ce qu'ils ont fait, les promesses et les actes qui sont derrière aussi, peut-être.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une seule idée. Et il en chie tous les jours à cause de cette idée. Il en a chié beaucoup avant. Et ça va être compliqué par la suite. Et je pense qu'effectivement, peut-être garder l'idée de Mélissa, mais la centrer autour d'un principe. C'est-à-dire, si Fillon a été élu, il parle de son récit national, il nous casse les couilles avec. Ben, s'il le fait, ben, on se souviendra lui pour ça. Voilà.
Non, mais ce que pointe Fib, c'est le manque de simplicité. Enfin, qui est aussi dans le truc de Luc, c'est que les gens ne lisent pas les programmes. Pourquoi ? Parce que c'est trop long. Qu'il faudrait qu'ils aillent chercher un PDF sur un site, je ne sais où. Et il y a un problème d'accès, mais c'est vrai qu'il y a aussi un problème de quantité à lire. Et
justement, si
tu vois. Non, mais bien sûr, c'est l'idée de morceler, tu vois. Mais il y a toujours des gens qui diront.
C'est tout le problème de l'écologie aujourd'hui. L'écologie, c'est très complexe. Personne ne veut se faire chier avec ça. Et les gens veulent voter pour Nicolas Hulot parce que c'est un ravi de la crèche qui veut sauver les pingouins. C'est pour ça qu'il le mec, il a eu plus de succès que le mec. Il est bac moins 16 par rapport à Allègre. Voilà. Les mecs, ils prenaient un présentateur de télé, ils disaient oui, bravo contre le mec qui était prix Crawford, c'est-à-dire quasiment le prix Nobel de géologie.
Arrête, Philippe, c'est l'idée de la politique que tu défends. Des stars de télé qui se présentent. Oui. J'adore ça.
C'est plus beau, Nicolas Hulot, c'est plus sexy.
Ça te donne envie d'aller dans un Airbnb.
Justement, ce que je disais, c'est que la faiblesse du Parti écologiste aujourd'hui, et si on veut penser le Parti écologiste, c'est qu'on ne peut pas raconter l'écologie dans sa réalité et sa complexité, parce que personne ne la comprendrait. Voilà.
Je crois que Fibre était sur un débat très. Je crois que Fibre était sur un débat très différent.
Un débat solo.
Il était sur une autre émission en fait là.
Juste avant de terminer, Mélissa.
Voter.
C'est pas mal comme dernier message ou pas ?
Ouais.
Allez, votez et surtout on vous attend sur le forum. On voudrait bien savoir ce que vous pensez des mesures de Mélissa. On n'a pas eu le temps d'en parler parce que l'émission est en retard, mais aussi sur la notion de vote influent, de rappel, de push pour que les gens votent pour éviter justement la non-participation qui est un vrai problème aujourd'hui. On attend en tout cas beaucoup vos avis sur le forum.
FAQ.
Et nous terminons notre dernière FAQ avec rien à voir sur le sujet encore une fois parce qu'on respire un petit peu. On va parler de vous, les Patreons, qui nous avez aidés à nous enrichir. On est très contents. Et surtout, à acheter du matériel d'enregistrement. Le premier, comme dirait Fibre, la première marche d'escalier, c'est notre petite console d'enregistrement qui nous permet d'enregistrer absolument n'importe où. Sans prise de courant, sans ordinateur. On peut vraiment faire des podcasts un peu n'importe où. On vous a demandé dans quel lieu vous nous enverriez pour enregistrer des émissions.
Ah, je sais pas, dans un lieu en plein air un parc, les buts de Chaumont, ou alors le Champ de Mars, non ?
Au Kilimanjaro. J'aimerais bien qu'il se déroule genre en province, mais dans le sud. Ce serait bien qu'il y ait Henri Michel, mais en live, dans Studio 404. Tu vois.
Au sud de la France, il fait froid là pour l'instant, donc...
Sur la Riviera. Moi.
J'aimerais bien qu'il soit enregistré à Saint-Étienne.
Ouais. On m'a dit apparemment que la recyclerie, c'est le temple des bobos. Donc peut-être que si vous allez là-bas et vous mettez des... boîte d'œufs sur les murs pour insonoriser, ça peut vraiment être cœur de cible.
Dans un vol 0G, on a pesanteur.
Vous avez pas mal d'auditeurs à Lille et vers la Suisse, donc je vous conseille d'aller leur passer un petit coucou, ils ont l'air sympathiques.
Dans les toilettes d'un grand magasin, ça peut être drôle, je pense. C'est genre là où les gens se séparent entre toilettes hommes, toilettes femmes. C'est le bon endroit pour les péchos, entre ceux qui sont pressés et ceux qui sortent un peu gênés. Genre, ouais, je suis resté un quart d'heure... Donc posez-moi vite votre question, quoi, tu vois.
Genre métro Châtelet, genre au milieu, là où tout le monde se sépare.
Là, vous allez vous le faire piquer, oui.
Parce que j'adore l'idée que tous les chemins se séparent le matin, le midi, le soir, qu'il y a un espèce de mouvement absolu.
Toi, être homme-femme, les gens se séparent.
Ouais, mais là, c'est encore mieux. Genre, ils partent en
des dans les toilettes des Galeries Lafayette, j'ai assisté à des couples qui s'embrassaient comme s'ils allaient jamais se revoir, alors qu'ils allaient pisser chacun dans leur toilette.
Soit à la plage, soit dans une piscine, genre au moniteur, mais en ayant une entrée pas trop chère, parce que ça coûte hyper cher, les moniteurs. Mais genre, en fait, genre, je sors de la piscine... Ouais, alors c'était comment ? Ouais, j'ai fait 3-4 bras, alors on se trouve que c'est pas mal, tu vois.
Sur la station internationale, attends, c'est quoi ? ISS, International Space Station.
Non, mais vous devriez faire ça dans une escape room pendant que vous essayez de résoudre les énigmes.
Dans 4 ans aux États-Unis pour voir qui passera.
Dans 4 ans aux
États-Unis ? Ouais, ça serait sympa.
Dans un club de striptease ?
Je pense que le prochain podcast, c'est pas, ça devrait être dans la foule, tu vois, profiter du matos, peut-être aller sur la ligne 13 du métro un matin, à 8h30 sur la ligne 13, ça pourrait être sympa. Ouais.
Bah alors c'est pas forcément rigolo, mais je viens de déménager à Rennes, donc à Rennes évidemment.
Ah bah moi je suis lilloise, donc à Lille hein.
Ah d'accord. En Patagonie
Dans une casse.
En province sous l'eau, du coup.
Alors, un parc, ça serait sympa, avec des bruits des petits animaux, les oiseaux, ça serait sympa, ouais.
Alors, grosse casse dédiée à un de nos auditeurs. Ouais. On l'appelle comment ?
Celui des toilettes des grands magasins.
On l'appelle Monsieur Toilette.
Des Galeries Lafayette.
Je sais incroyable. Qui c'est, mais je ne dévoile
pas. Ah ouais. qui lâche pas le morceau. Les auditeurs, vous étiez particulièrement bien arrosés ce soir. Hein. J'ai l'impression que.
C'était le soir du Beaujolais nouveau, hein, faut le savoir. Ou la veille, je ne sais plus, mais.
Ils étaient éclatés.
Bah, ces FAQ m'ont bien fait rigoler et nous ont permis quand même de passer à travers cette émission qui était une émission lourde. Hein. On a réformé la France deux fois. On a vu le futur, on a appris aux gens à servir d'Internet, enfin, une émission très modeste, hein, avec un spectre très, très réduit, très petit.
En mode tente.
Studio 404, l'émission de société numérique.
C'est la fin de cet épisode de novembre de Studio 404. C'était encore une spéciale politique comme l'année dernière. On espère presque que ce ne sera pas une spéciale politique en novembre 2017. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Daz, Mélissa, Sylvain, Fibre de nous avoir apporté vos chroniques, vos éclairages, vos avis et parfois vos avis complètement pétés. Et c'était sympathique. On vous donne rendez-vous, bien sûr, sur le forum, puisque chacun de nos chroniqueurs va ouvrir une petite section pour venir discuter plus précisément des sujets. On vous donne rendez-vous, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter. On vous remercie beaucoup encore à la communauté de contribuer au Patreon de qualité pour financer les productions d'émissions que sont Studio 404, C'est Cool, C'est Quoi et Trajectoire. Et nous, on se retrouve au mois de décembre pour une émission spéciale qui aura lieu au Tank, nos amis et partenaires du Tank. On vous en dit pas plus, on vous donne rendez-vous dans un mois. Ciao.
Bye bye. Merci.